Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bunko, le podcast qui décortique la culture manga. C'est toujours la même équipe, je suis Pedro et je suis accompagné par mes deux camarades, Julien et Max. Salut Julien, comment vas-tu ?
Eh bien écoute, ça va très bien, c'était une semaine assez chargée puisque j'ai commencé mon nouveau taf. J'ai été, on va dire, bien pris par la découverte de la nouvelle équipe et tout ça, quoi. Donc j'ai pas trop eu le temps de lire ces derniers temps, mais là j'ai envie de rattraper le temps perdu.
T'inquiète pas, moi je suis un escroc, j'anime un podcast sur le manga et j'ai pratiquement pas lu de manga cette année. Mais j'ai acheté tous les mangas de la collection Héritage d'Akata que nous devons lire, les trois, et peut-être qu'on va en parler tout prochainement, teaser. Et du côté de Max, salut Max, comment ça va ?
Salut, ça va, et toi ?
Ben moi ça va pas mal,
ah ouais ?
Je me réjouis, je vais lire des mangas.
Je vous avoue, c'était un grand dilemme pour moi de venir aujourd'hui parce que j'avais le choix entre être là avec vous deux ou jouer à Alan Wake 2. Et j'aurais préféré jouer à Alan Wake 2, en fait, mais du coup, je me fais violence et je viens, voilà.
Ouais, mais tu pourras jouer après.
Bah non, même pas, parce que je suis pas chez moi, je suis sur Paris aujourd'hui.
Bah voilà, si c'est pas beau, tu te sacrifies pour
Tout à fait.
Pour le podcast.
Exactement.
Dans ce nouvel épisode de notre série Focus, nous allons parler de la maison d'édition japonaise Shueisha, célèbre éditeur de manga que vous connaissez sans doute toutes et tous. Il est à l'origine notamment du magazine de prépublication Weekly Shonen Jump, mais aussi du V-Jump, un magazine culte des années 90, ou encore plus récemment du Jump Plus, une plateforme en ligne de prépublication, pour ne citer que ces quelques exemples. Ce dont nous souhaitons parler plus particulièrement aujourd'hui, c'est du lancement, depuis cette rentrée de 2023, de deux nouveaux projets majeurs pour l'entreprise. Le premier, c'est la série en prise de vue réelle, live action, comme on dit, de One Piece, qui est sortie sur Netflix. Et le second projet, c'est l'arrivée de deux formules payantes, sous forme d'abonnement, sur la plateforme de lecture de manga en ligne Manga Plus. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ces deux projets, notamment pour la sortie de la série One Piece, qui a fait beaucoup de bruit au niveau mondial. En revanche, ce dont l'on a moins parlé, selon nous, c'est d'analyser comment ces deux actualités, a priori isolées, et qui d'ailleurs sont souvent traitées de façon isolée, s'inscrivent peut-être, en réalité, dans une stratégie plus globale de la Shueisha, une stratégie mise en place déjà il y a quelques années, qui est une stratégie d'expansion. Expansion à la fois de l'entreprise. Vous savez que la Shueisha, c'est une entreprise qui reste principalement ancrée sur le territoire japonais, avec moins de 1000 employés, malgré l'aura éminemment internationale, voire globale, des œuvres qui sont créées et promues par cette firme. Son expansion internationale, elle était jusqu'ici assurée plutôt par d'autres entreprises qui s'occupaient de prendre le relais pour localiser des œuvres, notamment les éditeurs français, que l'on connaît bien, ou des sociétés partenaires pour d'autres pays, comme la Shogakukan. Et avec ces deux projets, c'est aussi la manifestation d'une envie d'avoir un contrôle plus direct de l'exploitation des œuvres de l'entreprise à l'étranger. Donc, expansion de l'entreprise, mais aussi expansion des licences. On va le discuter tout au long de l'épisode. Il y a également une envie d'expansion de l'influence des licences de la Shueisha pour en faire des marques globales que l'on va retrouver partout sur le globe et sur toujours plus de médiums différents et de produits dérivés. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de mener une discussion en trois temps. Dans un premier temps, on va revenir sur le lancement du live-action One Piece et le restituer dans l'histoire ou l'historique des live-action de manga afin de comprendre qu'est-ce qui est différent avec cette série. Et dans un second temps, on va analyser l'offre d'abonnement de Manga Plus et ses potentielles conséquences sur le marché du manga à l'étranger, et notamment le marché francophone. Puis finalement, dans une troisième partie, on va essayer de réfléchir ensemble à ce que je viens d'esquisser, à savoir comment ces deux projets, a priori isolés, s'inscrivent dans l'affirmation d'une stratégie d'exploitation de licence manga à un niveau plus global. Alors, est-ce que ça vous va comme plan, les gars ? Est-ce que j'ai bien résumé ?
Ça a l'air pas mal.
Ouais, finalement, j'ai peut-être bien fait de venir, en fait.
Ah, tu vois, quand même. Tu pourras jouer après, Alan Wake.
Tout à fait, ouais.
Très bien, alors, c'est parti, les gars. Bunko !
Bunko ! Bunko. Alors, la série One Piece Live Action, donc c'est le 31 août 2023 qu'elle arrive enfin sur Netflix, parce que ça faisait déjà quand même plusieurs années qu'elle était en production. C'est une coproduction entre la Shueisha et un studio américain dénommé Tomorrow Studios. C'est une série donc, qui était en développement depuis 2017, quand même, déjà 6 ans. Netflix a commandé une première saison qui est composée de 8 épisodes, donc c'est cette première saison-là qui est sortie sur la plateforme de streaming. On le sait bien, le manga et les adaptations en série prise de vue réelle ou long métrage, c'est souvent un mariage difficile. On est souvent très déçus. C'est la raison pour laquelle je pense que beaucoup d'entre nous n'en attendaient pas forcément grand-chose de cette série-là. Mais à la grande surprise générale, One Piece a non seulement reçu un certain succès critique, à la fois de la presse, mais aussi des lecteurs de manga, et en plus, elle a cartonné au niveau mondial auprès d'une population qui n'a pas nécessairement lu le manga en tant que tel. Donc c'est vraiment une série qui a été très regardée. Il y a Netflix qui, il n'y a pas longtemps, qui a indiqué des chiffres de 18,5 millions de spectateurs pour la première semaine dans 46 pays, ce qui a d'ailleurs amené la plateforme de streaming à très rapidement officialiser la poursuite de la série avec une commande passée pour la saison 2. On a beaucoup discuté de la série en off avant de préparer l'épisode. On était plutôt d'accord sur le fait qu'on n'aurait pas forcément parié sur un succès critique et commercial de la série. Parce qu'en plus, comme je l'ai dit plus tôt, c'est pas non plus la première fois qu'une adaptation de manga a été réussie. Bon, en fait, peut-être qu'on peut précisément commencer par là et revenir en fait sur un petit historique des adaptations de manga en série et film.
Alors c'est vrai que l'adaptation des mangas et le Japon, c'est quand même une longue histoire. Hein. Quand on n'en a pas conscience, mais quand on regarde, il y a énormément de dramas ou de séries télé ou de films hein, qui ont été adaptés à partir de mangas avec des réalisateurs très connus par moment. Hein. Et en fait, ça se compte en centaines de films. Hein. C'est pas juste quelques cas isolés, hein, c'est vraiment une industrie là-bas. Par contre, c'est souvent des dramas et des films à petit budget. Pour un public local, du moins c'est comme ça que ça a démarré. Et au fur et à mesure du temps, on voit que finalement il y a une appétence pour ce genre de film et il y a des budgets qui ont augmenté petit à petit pour aller vers des films qui font par exemple la saga, la trilogie 20th Century Boys était à l'époque le plus gros budget avec 60 millions de dollars en 2008 pour 3 films, donc à peu près 20 millions par film, ce qui n'est pas rien. Il y a aussi eu les 2 films de Gantz qui ont eu en tout 45 millions en 2011 hein, pour les 2 films, et même une adaptation d'un manga de Leiji Matsumoto qui est Space Battleship Yamato avec 24 millions de dollars. Ça, c'est quelques exemples de films à gros budget.
D'ailleurs, pour la petite histoire, par exemple, dans le cas de la trilogie de 20th Century Boys, je me souviens déjà qu'à l'époque, il y avait eu petit événement, parce que même en France, on y avait eu des avant-premières pour le premier film. C'était assez attendu. C'est pas comme je le disais avant, c'est en termes de réussite, il y a déjà eu des petites réussites. Et c'était le cas de 20th Century Boys qui avait su générer une attente.
Ouais, c'était déjà cette transition entre les films à petit budget au départ, comme dont parlait Julien. On peut revenir après sur quelques exemples dans les années 70, dans les années 80. Et puis après, effectivement, au début du 21e siècle, il y a déjà des films japonais un peu plus ambitieux et qui sortent aussi au niveau international. Je me souviens aussi de la promo de 20th Century Boys qui était assez importante en fait.
C'est vrai que si on revient un petit peu sur l'historique, on avait pu trouver nous des listes de plus de 360 films. Alors là, c'est des listes qui sont pas exhaustive, mais ça donne déjà une idée du nombre de films qui ont pu être adaptés. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y en a bien le double en réalité, au moins 500 qui ont dû être adaptés depuis les années 70. Et par exemple, dès les années 70, on va retrouver une trentaine de films qui a été fait pendant ces 10 années-là, dont L'école impudique, les fameux Lone Wolf and Cub, et Gandhi Hiroshima, même Phoenix de Tezuka a été adapté à cette époque-là. Pareil pour les années 80, on avait à peu près une trentaine de films qui ont été faits. On va retrouver du Maison et Coucou, du Touch, du Yawara, donc des mangas à succès de cette époque-là. Et à partir des années 90, on va dire, on commence à voir tout doucement une petite montée au niveau des productions. On va passer à peu près la quarantaine. Et là, on va retrouver des succès du moment comme Kekkō Kamen, hein, le fameux manga de Gonagai avec une nana juste cagoulée, le reste, elle n'a pas de vêtements. Voilà, même du Blackjack ou dans plein moment de locutisme avec Echo Azarak, hein, donc un manga qui est attendu personnellement en France. Et c'est à partir des années 2000 où ça explose. Et c'est là où, aux années 2000, on commence à avoir beaucoup plus d'adaptations, notamment le fameux 20th Century Boys, ou même on a eu aussi Dororo de Tezuka, mais là on a déjà une centaine d'adaptations pendant cette décennie. On a aussi des adaptations comme Battle Royale qui sont tirées de romans mais qu'on peut vraiment rapprocher avec ces adaptations-là.
Et qui commence aussi à avoir un succès chez nous à ce moment-là, tu vois. Battle Royale, ça devient, c'est à ce moment-là que t'as l'impression qu'on commence à creuser aussi en France, en Europe, ou aux États-Unis aussi, l'idée de « Ah, bah, y a des films adaptés des mangas, c'est intéressant ».
Exactement. Ensuite, on arrive aux années 2010 où là, il y a plus de 170 films qui sont répertoriés, notamment les Kenshin, Terraformas, Fullmetal Alchemist, Habitant l'Infini ou Bleach. Et je précise, ça, ce sont des films japonais, à ne pas confondre avec les films du même nom qui ont été réalisés par les Américains. On est vraiment sur un marché local pour des Japonais.
Ouais, c'est ça. Là, on parle vraiment des réalisations japonaises. Bah, c'est comme ça que ça a commencé. Après, il y a eu aussi des... On a étendu un petit peu ça à l'Asie. Si on prend Old Boy de Park Chan-wook en 2003, c'est aussi une adaptation d'un manga. C'est aussi le début des années 2000. C'est pas le Japon, c'est la Corée du Sud. Et c'est souvent un des films qui a permis d'introduire le cinéma sud-coréen en Europe. C'était aussi un succès. Et d'ailleurs, un public qui lisait pas du tout le manga pour, je pense, l'essentiel du public qui a vu le film Old Boy.
Là, on parle pas de drama et de série télé parce qu'on pourrait y passer des heures, mais vous avez compris, hein, c'est un peu le même principe. Et ce qu'il y a, c'est que ce marché qui était uniquement japonais, tout doucement, ben, c'est un petit peu ouvert vers l'international, sachant que ce n'est pas la production japonaise qui s'est réellement exportée, mais plutôt les productions comme par exemple le marché US qui a voulu adapter à son marché certaines licences. Et le marché US commence déjà dès les années 90. On a le manga The Guyver qui est une sorte de Sentai, de combattants biomécaniques qui n'est pas connu chez nous. Hein. Et surtout l'adaptation, je me rappelle, je l'ai vu à l'époque, hein, l'adaptation de Ken le Survivant.
Elle est géniale.
Moi, j'ai jamais vu.
Alors, c'est un méga nanar, mais il est incroyable.
Il est génial.
Il est incroyable, ce film. Il n'y a que du sable pendant tout le film, tu vois rien.
C'est un Américain, Ken, ou c'est quand même un Asiatique?
C'est un Américain.
Ah, c'est un Américain.
Ouais. Ok.
Là, on est vraiment sur l'adaptation d'Américains avec des acteurs donc américains. Alors, en les années 90, ça a commencé tout doucement. Il n'y a que ces trois films, donc The Giver et Ken. Dans les années 2000, on a... quelques adaptations, on a Speed Racer par exemple qui a été fait, alors lui je ne l'ai pas vu.
Et on a surtout le chef-d'œuvre
Dragon Ball Evolution. Voilà. Je ne l'ai même pas vu hein, d'ailleurs.
Tu l'as jamais vu?
Non, jamais, j'ai résisté.
Et alors, je t'en supplie, prends 1h30 de ta vie pour regarder cette merde. Ça en vaut le coup, je pense, vraiment.
D'accord, je vais le prévoir alors, au moins pour ma culture.
Je pense qu'il a un grand rôle à jouer dans le traumatisme, justement, dans l'esprit des gens sur l'incapacité à adapter correctement des mangas.
Et après, à partir des années 2010, on va dire, c'est là où on commence à avoir beaucoup plus de budget dans les adaptations, parce que clairement avant c'est vrai qu'on n'avait pas des gros budgets, c'était vraiment des films, on le voit, très cheap dans la production, et on va commencer à avoir des Edge of Tomorrow, des Ghost in the Shell, des Death Note, des Gum, des Senseiya récemment, même Old Boy qui a aussi été adapté. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que surtout c'est vraiment une grosse américanisation de ces adaptations.
Commence à y avoir des gros noms derrière aussi. Parce que bon, malgré la qualité critiquable des films, qui est parfaitement entendable, la prod qui est derrière, c'est pas des petits, quoi. Parce que Old Boy, version américain, aussi mauvais qu'il soit, ça reste quand même Spike Lee derrière. Gun, c'est James Cameron et Robert Rodriguez. Il y a de la prod quand même.
Et Edge of Tomorrow, il y a Tom Cruise dedans, donc il y a quand même des gros acteurs.
Exactement.
Et c'est vrai qu'à partir de la fin de l'année 2010, il y a quand même une volonté à mieux respecter l'univers original, mais en l'universalisant, en l'américanisant malgré tout.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même un passage de gens qui travaillent sur une adaptation d'un matériel d'origine qu'ils ne connaissent pas trop à des fans. Tu vois, Cameron, il s'est toujours présenté comme un fan de Gun. Ouais. Et ça, je pense que ça change.
Après, dans son discours, Cameron, ça faisait quand même des dizaines d'années qu'il voulait le faire.
Ah oui, c'est un projet de longue date.
D'ailleurs, on a un petit peu peur, hein, parce qu'il y a un projet qui est en discussion depuis très 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 longtemps, c'est le projet Akira.
Avec Zac Efron.
Et ça, voilà, ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui claquent des fesses pendant la première bonne annonce. Malgré tout, dans les dernières adaptations, il y a des choses qui étaient pas mal. Moi, j'avais beaucoup aimé Edge of Tomorrow. J'avais bien aimé Le Gun,
j'ai trouvé sympa.
Et j'ai pas vu le Death Note ou le Ghost in the Shell, mais en tout cas, dans les dernières adaptations, tout n'est pas à jeter et il y a des choses qui sont plutôt sympas.
Disons qu'on n'est plus dans les gros navets, en fait. On est dans des films qui peuvent être critiqués, qui peuvent ne pas être appréciés, mais qui ont quand même des qualités. Il y a quand même un effort qui a été fourni en comparaison à ce qui était fait dans les années 90, en fait. Ça, c'est, je pense que c'est clair. En fait, on a une évolution qui est un peu similaire à celle qu'on a eue avec le jeu vidéo aux États-Unis. On a eu, sur la même période, dans les années 90, des adaptations de jeux vidéo en film, les Street Fighter, Double Dragon, Mario Bros, Mortal Kombat, qui sont des films qui, aujourd'hui, peuvent être appréciés pour le côté nanar. Tu vois, le côté second degré, on se marre et on regarde Street Fighter, tu vois, et on passe un bon moment. Mais les qualités filmiques, cinématographiques de ces films sont quand même, contestables.
Alors, sur Super Mario, je te permets pas, hein. Je suis désolé, c'est un chef-d'œuvre de Super Mario des années 90, ok, c'est indiscutable.
Super Mario.
Ah, tu risques d'être isolé quand même un peu. Moi, je l'avais bien aimé quand j'étais petit aussi, parce que ça n'avait tellement rien à voir avec l'univers de Super Mario. Pour moi, c'était un espèce de mélange de Total Recall. Tu te souviens de ce film avec Mario, quoi, un truc un peu futuriste.
Je sais pas, moi, j'avais adoré le monde apocalyptique de Bowser.
Avec les superbes bombes.
Ouais.
C'était génial.
Ouais. Mais je trouve qu'il y a aussi cette transition, tu vois, entre ces films-là des années 90 qui adaptaient des jeux vidéo et les films plutôt du début du 21e siècle. Les Silent Hill, alors là, très récemment, Détective Pikachu, le Sonic, par exemple, je pense que ça reste des films intéressants pour enfants. C'est pas des films, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais c'est des films d'enfants qui sont intéressants et qui sont assez fidèles.
Même Disney s'y met aujourd'hui, hein. Il fait beaucoup de live action de ses licences plus connues. Et malgré tout, même si là on sort un petit peu du cadre, c'est une adaptation de dire ben voilà, il y avait une version qui était de l'animation derrière, on va en faire avec des vrais acteurs. Et ça fait des mariages plus ou moins heureux selon le support de base, quoi.
Et du côté de la France, ou même pris de manière un peu plus générale de l'Europe, on a aussi tout un historique de films qui ont été adaptés de mangas. Et ça commence très tôt. Alors, à notre connaissance, le premier, c'est Lady Oscar de Jacques Demy, non ? En 79, film qui adapte le roman La Rose de Versailles de Ryoko Ikeda. Bon, après, il faut savoir que c'était un film de commande. C'est pas du tout... Jacques Demy, il n'était pas du tout connaisseur du manga. Il a détesté ce film. Ce film n'est pas sorti en France de son vivant. Donc, il y a une histoire assez particulière sur ce film, combien même il a été apprécié au Japon. Mais c'est marrant de se dire qu'il y a déjà eu une adaptation de manga en 79, alors même que le manga n'était pas vraiment installé en France à ce moment-là. Et après, il aurait fallu attendre quand même quelques années avant d'avoir une nouvelle adaptation signée par un Français, je crois que c'était en 95, avec Crying Freeman, de Christophe Gantz, qui, alors moi, c'est une adaptation que je défends. Je trouve que ça reste un film solide. Et Gantz, qui est un gros nerd, hein, qui est un gros joueur de jeux vidéo, qui est un lecteur de manga, qui est un fan du manga, et ça se ressent, en fait. Tu ressens quand même une certaine fidélité à l'œuvre d'origine.
C'est intéressant, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est là où on va avoir aussi une adaptation plus local. Certes, contrairement aux États-Unis, il y a peu de moyens, mais il y a des idées, contrairement à eux. Et la première adaptation qui va vraiment être comme ça, c'est Quartier Lointain, donc une adaptation de Jiro Taniguchi en 2010, où l'action se passe donc en Europe et qui reprend exactement la même thématique. C'est d'ailleurs honnêtement une bonne adaptation. Moi, j'ai beaucoup apprécié le film, plutôt qu'essayer de faire quelque chose de japonais. On l'a vraiment adapté à l'Europe, tout comme le téléfilm Un ciel radieux. Alors, il y a pas beaucoup de budget, mais on reprend les thématiques du manga en apportant un petit peu plus de réflexion encore derrière. Et la dernière qui a été pas mal critiquée, autant adulée que détestée, c'est celle de Nicky Larson, l'adaptation par Philippe Lachaud, qui est l'adaptation, on va dire, du dessin animé, hein, qui est lui-même l'adaptation censurée de l'animé japonais, qui est l'adaptation du manga. Donc on va assez loin. Personnellement, moi, j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup cette adaptation. j'ai revu encore il n'y a pas longtemps et j'ai encore rigolé comme un débile devant, même si je sais que beaucoup la détestent. Moi, je la défends totalement.
Moi, je déteste. Je déteste les films de Philippe Lachaud, mais ouais, je peux comprendre que certains apprécient.
Il faut dire, c'est vrai que en termes de scénario, c'est un épisode qui aurait pu être dans City Hunter, mais comme il y a un gros mélange de références à notre culture, à nous, au club d'eau, je comprends que ça peut en énerver certains, et du coup, autant il a joué sur la nostalgie, peut-être un peu trop, et à la fois c'est une très bonne adaptation, et à la fois c'est un peu trop français par moment.
Ah, c'est très français. Ouais. Ah ouais,
et l'humour, je suis pas sûr qu'il marche ailleurs. Le scénario, oui, mais l'humour, les petites blagues resteront très locales, quoi. Et y a une annonce qui a été faite, alors là, c'est pas un film, c'est une série télé par TF1 qui va être la série de Cat Size. Donc encore une vague de nostalgie du club Dorothée, avec une adaptation, mais malgré tout, on voit que la France a l'envie d'aller adapter tout doucement à son rythme quelques gros succès qu'ont fait les beaux jours en fait du club Dorothée. Or là, l'adaptation ne s'arrête pas qu'ici, parce que dans le reste du monde, on en a d'autres comme à Hong Kong ou en Corée du Sud. On ne va pas toutes les faire, mais en réalité, il y a aussi des petites adaptations locales qui ont chacun leur charme, je dirais.
Alors, ce rapide panorama historique des nombreuses adaptations qu'on a vues au cinéma ou en série de manga, ça permet de nous recontextualiser le fait que la série One Piece, elle arrive pas de nulle part. Elle arrive déjà d'un marché qui existe depuis maintenant 50 ans. On a vu qu'au départ, c'était des films produits par des Japonais pour un marché japonais, un marché qui a tendance à se globaliser. Il y a eu des productions américaines, il y a eu des productions européennes. One Piece, c'est une production qui est particulière. Maintenant, on va aborder pourquoi cette série One Piece est particulière par rapport à d'autres séries. Mais peut-être avant, vous regardiez des live-action sur le manga, que ce soit des japonaises ou des adaptations. Est-ce que vous êtes public de ça ou pas du tout?
Moi, je suis assez public hein, de live-action. Hein. J'aime bien un moment, j'avais justement, avec des amis, on avait un petit rendez-vous régulier où on se matait des live-action et j'ai pu en voir certains. Franchement, alors, il y a des fois, il y avait des belles purges, mais alors, les trucs étaient incroyables. Et des trucs où on s'y attend pas, genre le film de Terraform Mars, le manga, c'est une purge, mais le film qui adapte que le premier manga, il est incroyable.
Et tu avais donc un petit rendez-vous, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Julien est un garçon très organisé, et il a plein de petits rendez-vous, il allait goûter manga. Et t'avais tes goûters live action alors aussi.
Exactement, c'est ça. C'est ça, c'était le ciné live action, tu vois, et on se matait ça genre un par mois ou un truc comme ça, et j'en ai vu pas mal, Kenshin, Habitant de l'Infini, enfin j'en ai vu, je pense, une bonne vingtaine en tout, et c'est vrai que des fois, ben, y a des très très bonnes surprises, malgré tout, il faut être tolérant aussi avec ce genre de film, mais typiquement, l'adaptation de Jojo, la saison 4, partie 1, je l'avais trouvée excellente aussi. Le vieux live action, c'est plus compliqué, hein, on avait essayé de regarder un Spiral de l'époque, bon là, ça pique un petit peu plus par contre.
Ah, Spiral, il en live action aussi
Tout à fait, ouais.
Ok, je savais pas. Très bien. Et toi, Max?
Alors, moi, de mon côté, je vais pas dire que je cherche à les voir à tout prix. À chaque fois, je tombe un peu dessus par hasard. Je sais pas quoi regarder et je vois que c'est en trend sur une plateforme de streaming et je me dis, ah tiens, pourquoi pas. Généralement, je trouve que c'est des purges. En tout cas, les adaptations actuelles, surtout celles de Netflix. Je pense à Full Metal Alchemist, Death Note. Death Note, c'est pas possible. Hein. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des créateurs de l'adaptation, mais c'est pas bon du tout. Après, il y en a certaines que j'apprécie. Généralement, c'est quand elles sont, déjà elles viennent du Japon ou de Corée, tout ce qui est américanisé je trouve ça nul, et c'est aussi quand c'est des grands noms qui sont derrière, donc je pense à All Boy de Park Chan-wook, mais aussi It Is A Killer qui a été réalisé par Takashi Miike. Celui-là, il m'avait pas mal marqué parce que Japon oblige, c'est hardcore. Déjà, le manga, il est dégueulasse, mais alors là, l'adaptation, visuellement, c'est... J'ai encore des images en tête alors que je l'ai vu il y a maintenant 13 ans, quoi. Je dirais pas que je cherche à les voir, mais si je tombe dessus, je regarde. Mais généralement, je suis pas très positif après le visionnage.
Ok.
Tu préfères quand même les Japonais?
Je préfère largement, en tout cas, les Japonais ou les Coréens, ouais.
Et toi, Pedro?
Pour être honnête, je suis pas du tout client, en fait. Mais c'est plus... J'allais dire, c'est presque plus par méconnaissance, mais je pense qu'au départ, il y a un peu de snobisme de ma part, pour être tout à fait honnête.
De toute façon, t'es snob tout le temps, donc à partir de là...
je suis un gros snob culturel. Non, mais je pense qu'il y a ça au départ, tu vois, il y a une espèce de dire, ouais, ça a l'air nul, jamais je vais perdre du temps à regarder ça. Et certainement à tort, des fois. Les quelques films que j'ai vus qui sont adaptés de manga, en fait, je ne savais pas que c'était des mangas au départ. Tu vois, par exemple, quand je découvre All Boy, je sais pas que c'est un manga. Moi, je crois que c'est un film de Park Chan-wook. En plus, ça sort au moment où, tu sais, c'est trop cool de dire que tu regardes du cinéma coréen, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde qui regarde du cinéma coréen.
Après, je trouve que All Boy, c'est un peu le mauvais exemple, parce que quand tu regardes le film...
C'est un cas à part, ouais. Il est mieux que le manga, on est d'accord.
Exactement, exactement. Il est largement mieux que le manga, franchement.
Ouais, je trouve le film largement mieux que le manga aussi. Et je crois que c'est le seul exemple que j'ai, en fait, de film qui a sublimé l'œuvre originale.
C'est peut-être un peu plus critiquable, mais je peux comprendre que des gens me citent Battle Royale, par exemple, aussi, tu vois.
Battle Royale, pour moi, c'était peut-être mon premier contact avec un film qui faisait manga, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des mecs qui ont des coupes qui ne sont pas des coupes de cheveux réalistes. Tu ne sors pas dans la rue avec cette coupe de cheveux, en fait.
Et un jeu d'acteur inédit aussi.
Il y a des jeux d'acteurs, mais hyper forcés, que t'as pas l'habitude de voir quand t'es occidental et que t'as pas encore été socialisé au cinéma, ce type de cinéma, en fait.
Mais bon, je pense que maintenant, il y a suffisamment d'eau qui a coulé sous les ponts, mais on peut parler de la fin avec Kitano, qui est censé être mort, mais qui se relève, qui s'assit, qui parle pendant 10 minutes et qui veut pas crever. Cette scène-là, je comprenais pas, hein, moi, j'avais pas les codes, hein.
Mais j'avais beaucoup aimé quand je l'ai vu, j'ai adoré Battle Royale pour le côté justement un petit peu dépaysant, en fait, hyper trash, tu vois, hyper...
Ah oui,
et même le concept, en fait, tu dis, mais c'est quoi ce concept, tu vois, et du coup, ça m'avait beaucoup plu. Chez les Américains, moi, il y a quand même 2-3 films que je trouve pas trop mal, tu vois. Moi, j'aime beaucoup Speed Racer, en fait, c'est un film qui a été critiqué, le film des sœurs Wachowski, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'amour dans ce film, tu vois, qu'elles sont fans en fait de Speed Racer.
Elles ont quand même fait une trilogie Matrix où tu vois très bien leur amour pour tout ce qui est culture japonaise.
Culture japonaise, ouais, en général, tout à fait, ouais, tout à fait. Mais après, enfin, je dois avouer que je suis pas hyper connaisseur, tu vois. Là, quand Julien, pour préparer l'épisode, Julien nous a sorti la liste. Il y a différentes listes, notamment des listes Wikipédia, qui recensent en fait toutes les adaptations en drama ou en film de manga, et c'est hallucinant. Il y en a vraiment plein qui ont été produites au cours de ces 50 dernières années.
Surtout qu'on n'y pense pas non plus, mais généralement aussi, tout ce qui est shoujo et josei en manga, par défaut, ils vont généralement être adaptés en film ou en drama qu'en animé. Plus généralement que, en tout cas, les seinen et les shonen.
J'aurais tendance à dire que ça s'adapte mieux, non ?
Ouais.
Ça, instinctivement.
Je suis assez d'accord avec toi. Ouais.
En tout cas, je vous conseille d'aller découvrir des live-action japonais. Il y a des belles surprises. Allez-y.
Il y a aussi l'adaptation Dragon Ball taïwanaise des années 80.
Ah oui,
qui est une masterclass.
Ouais, je vois ce que c'est. Elle est vachement mieux que Dragon Ball Evolution.
Ah, c'est incroyable. Au
moins, tu rigoles dehors, là.
À peu près le même budget que Bunko.
Pour revenir au sujet principal, qui est quand même l'adaptation live de One Piece, je pense qu'avant même d'expliquer en quoi cette adaptation diffère des autres, je pense qu'il est intéressant quand même un peu de contextualiser l'œuvre, surtout au niveau des chiffres. Parce que Julien, il nous a quand même ressorti des tréfonds d'Internet une liste de chiffres avec... bon, alors, vous pouvez pas le voir, hein, mais il nous a trouvé des tableaux comme il aime. Donc, si tu peux un peu nous présenter ça, Julien, ce serait pas mal.
Alors, du coup, One Piece, hein, série qui existe déjà depuis 1997, hein, donc ça commence à faire... Et la série, en fait, a dépassé officiellement les 500 millions de mangas vendus cumulés, ce qui est énorme. Même, on est à 516 millions exactement. Il y a eu, en 2015, il avait déjà battu le record du monde. Hein. Il avait déjà ce titre-là, mais il ne fait que continuer et prouver qu'il mérite. Parmi les 500 millions, on va arrondir, il y en a 400 millions qui ont été vendus au Japon et 100 millions de copies qui ont été vendues dans le monde. Ça veut dire... qu'il y a 20% du marché de One Piece qui est à l'international. Ce qui, finalement, ne représente pas tant que ça par rapport au marché japonais. Mais c'est tout de même une information importante puisque c'est une part qui ne peut que grossir, contrairement au marché japonais où, normalement, on va arriver à une certaine limite en termes de vente. Parmi ces 20%, il faut savoir qu'on n'a pas réussi à trouver des chiffres pour les US, mais on a trouvé des chiffres pour la France. Alors, en France, c'est toujours compliqué d'avoir des chiffres. C'est que quand il y a un petit combat d'égo d'éditeurs qu'on a des chiffres officiels, et Glénat, justement, en 2022, a annoncé qu'il avait vendu plus de 30 millions de One Piece, et notamment 5,6 millions en 2021, ce qui est quand même assez énorme. Et ces 30 millions, ça représente tout de même 6% des 20% qui restent. Donc, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'au niveau du monde, on est quand même à 6% derrière. Donc, il y a vraiment une grosse communauté de fans de One Piece en France. D'ailleurs, on peut le voir sur les tirages en France. Quand en 2005, chaque exemplaire se tirait, enfin le tirage initial, hein, était à seulement 50 000 exemplaires. Au fur et à mesure des années, ça a monté jusqu'à un pic en 2014 à 165 000 exemplaires par manga. Et on voit qu'il y avait une petite chute. Alors, on n'a pas d'autres chiffres plus récents, mais on voit que dernièrement, bon, mais ça a re-explosé. On peut pas les comparer, mais voilà, on voit que année par année, ça ne fait que augmenter. Puis c'était arrivé une certaine stabilité au milieu des années 2010, et aujourd'hui, c'est reparti avec le succès qu'on connaît.
Il y a plus de tomes de One Piece qui sont vendus en France que de Bibles. Tu te rends compte ? Du coup, est-ce qu'on peut dire que One Piece devient la Sainte Bible maintenant ?
Bah bien sûr, comme chacun le sait, c'est la meilleure série de tous les temps, mon gars. En fait, ce qui est marrant, c'est que aujourd'hui, elle devient tellement connue, c'est une petite parenthèse, que j'ai vu ça cette semaine, ça m'a fait marrer. Il y avait Combini, le média Combini, qui tweetait « Alors, vous avez lu le dernier chapitre de One Piece ?» Et en fait, le chapitre n'était pas du tout sorti, à part dans les trucs de Scantrad, en fait. et en fait, ils ont tellement, tu vois, ils veulent de l'engagement de la part des gens sur Twitter, sur X, devrait-on dire maintenant, qui te mettent ça, tu vois, ça va toucher un public général. Et tu vois, beaucoup d'entre eux lisent encore les scans aujourd'hui, même s'il y a une offre légale dont on va parler tout à l'heure.
Voilà, donc rappelez-vous des chiffres, 500 millions, 400 millions au Japon, 100 millions dans le reste du monde, dont 30 en France.
L'idée de mettre en avant ces chiffres-là, c'est pour qu'on comprenne que les enjeux, c'est pas les mêmes, en fait. Quand on adapte le manga le plus connu et le plus vendu au monde. En fait, on est en train de faire une adaptation pour un marché mondial. Il y a des enjeux qui sont mondiaux. Et je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'enjeux financiers qu'aujourd'hui pour cette adaptation de One Piece par Netflix.
Il faut dire aussi qu'un point qu'on n'avait pas précisé, c'est que dans l'évolution des live-action japonais, quand avant on était sur un marché local, il faut savoir que même si aujourd'hui il y a toujours des adaptations qui sont pour un marché local, il y a des acteurs étrangers qui sont arrivés, et notamment des acteurs comme Netflix ou Amazon, qui injectent de l'argent dans cette industrie aujourd'hui.
Bah, au moment où on enregistre, il y a bientôt Yu Yu Hakusho qui sort aussi en série live adaptée pour Netflix, mais cette fois-ci adaptée à... En fait, produite au Japon, mais pour Netflix Japon. Mais de fait, après, ça sera pour Netflix mondial, quoi.
Je pense qu'on peut dire aussi que Netflix, qui, avant la sortie, donc la réception critique positive, qui jouait un peu sa réputation après une série de fails. Parce que, comme je disais, tout ce qui était Fullmetal Alchemist, Death Note, Bleach dans une moindre mesure, la réception critique, elle n'était pas au top.
Cowboy Bebop aussi récemment, même si Cowboy Bebop, c'était l'adaptation de la série télévisée.
Exactement, Cowboy Bebop.
Mais tu sais, ils avaient vachement mis en avant la fidélité. En fait, au final, c'était une série plutôt mauvaise, enfin, très mal perçue en tout cas.
Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'une des stratégies que Netflix a trouvées pour essayer de rassurer les fans, c'est d'impliquer directement l'auteur, Eiichiro Oda. Et Eiichiro Oda a demandé donc une assurance qui était que la série ne sortirait pas tant que lui donnait pas son go au niveau de la qualité de l'œuvre en tant que telle.
En fait, ils ont fait un peu la stratégie Toei Animation avec le Joker Akira Toriyama, sauf que là, il semblerait que Oda se soit un peu plus impliqué que Toriyama dans les différentes œuvres de Dragon Ball, où à chaque fois on nous dit « Non, vous inquiétez pas, là il est aux manettes, Dragon Ball Super, ce sera super.
Dragon Ball Daima, ce sera Daima.
Ouais. » En fait, dans Dragon Ball Daima, bon, on est en train de faire une parenthèse, mais ils avaient dit « Non, non, cette fois-ci, Toriyama est vraiment bien impliqué. » Et tu sais, il y avait son propre message où il disait « Ouais, oui, là j'ai vraiment pris le temps de m'impliquer. » Parce qu'il sentait bien que cette excuse-là de dire que l'auteur original était impliqué, elle passait plus, quoi.
Et tu vois, dans la différence, c'est que l'implication de Oda, on la sent, en fait, parce que souvent, parce que la série, elle a été repoussée, hein, si je dis pas de bêtises, il y avait eu des dates qui avaient été annoncées, et plusieurs fois, elle a été repoussée, et la personne qui a pris la parole en premier, bah, c'était Oda, sur les réseaux sociaux, avec des petites screens d'une lettre qu'il écrivait, en expliquant à chaque fois que bah, il préférait prendre son temps, préférait que ce soit au niveau d'exigence que lui-même s'était imposé, avant de laisser la série arriver sur la plateforme de streaming.
Et en tout cas, Oda lui-même dit qu'il a participé au casting, en fait, à évaluer les acteurs, et que c'était important qu'il valide notamment Luffy, en fait, d'être sûr d'avoir le bon acteur pour incarner Luffy.
Alors, on peut aussi dire, on voit qu'il y a une énorme machine marketing derrière, qu'il y a un énorme budget aussi derrière. Il faut savoir quand même qu'au niveau du budget, on est sur environ 18 millions de dollars par épisode. C'est plus qu'un épisode de Game of Thrones. Les épisodes de Game of Thrones, en moyenne, surtout sur les dernières saisons, étaient plus à 15 millions de dollars par épisode. Et Cowboy Bebop, que tu as évoqué, Pedro, sur Netflix, c'était 6 à 7 millions. Donc, beaucoup moins. Et en plus, donc, au-delà de ce gros budget, je disais qu'il y avait une machine marketing. Avant la sortie de la série, partout, il y avait des publicités. Même dans ma gare, je voyais des affiches de One Piece. Il y avait des affiches statiques, mais il y avait aussi des affiches vidéo, là, comme ils savent faire maintenant avec les nouveaux panneaux, où tu avais un petit teaser de la série. Tu avais des avant-premières dans... je ne sais pas combien de cinémas. En tout cas, nous, en France, on a eu l'avant-première au Grand Rex. Je crois que c'était les deux premiers épisodes, si je ne dis pas de bêtises.
C'est les deux premiers épisodes, ouais.
Oui, il y a pas mal d'influenceurs qui avaient couvert justement l'événement pour en parler derrière.
Et Oda était présent à une avant-première aux États-Unis.
Ah oui, d'accord.
Oda lui-même était présent, incognito, mais il était là.
Ouais, et puis il faut savoir que c'est quand même un projet qui est là depuis longtemps, hein, puis ça fait plus de 6 ans qu'il est en gestation. C'est pas non plus un projet qui est sorti du chapeau comme ça au dernier moment. Donc c'est vraiment un projet qui était très important pour Netflix, parce qu'aussi il investit sur une licence japonaise pour un public mondial. Et ça, c'est quand même assez rare, hein, de mettre une licence comme ça, qui finalement est assez localisée, dans le sens où One Piece s'intéresse à une certaine partie du public. Et là, d'un coup, on prend une licence d'un autre pays pour essayer d'en faire un succès mondial. Et on voit qu'il y a eu une très forte attention durant ces 6 dernières années à avoir une adaptation qui soit très fidèle, mais aussi qui soit occidental, pour que ça puisse parler à tous les pays du monde, à toutes les personnes du monde. Il y a une grosse diversité, justement, dans le casting.
En fait, un truc, je me souviens une fois, tu disais ça en off, Julien, c'est que C'est un autre univers, c'est un autre monde. On accepte assez rapidement que ce soit un autre monde. On arrive à se reconnaître dans ce monde sans que, tu vois, sans que ce soit un monde trop japonais pour les personnes qui seraient pas familières avec une culture japonaise ou asiatique. C'est pas complètement occidental, mais c'est assez proche de personnages occidentaux parce que bah, le casting est essentiellement composé d'acteurs occidentaux. Donc il y a ce truc où on te montre à la fois quelque chose d'un peu exotique, mais aussi de suffisamment proche pour plaire à un public occidental qui, à mon avis, constitue une bonne partie du public, mais pas uniquement, quoi.
Et puis, ça a été réalisé avec les standards de maintenant. C'est-à-dire, il faut de la diversité, il faut justement avoir certaines notions à l'intérieur. Il coche justement toutes les cases des grosses productions d'aujourd'hui afin que bah, ça puisse plaire au maximum de public, mais sans non plus rendre l'adaptation fade. C'est ça qui est important.
Ouais, c'est ça. Disons que One Piece, c'est une histoire qui est assez facilement transposable à notre contemporanité, enfin, à notre manière de raconter des histoires en série aujourd'hui, avec une portée un peu universelle, même si rien n'est fondamentalement universel. Mais ces personnages-là, ils sont assez compatibles avec tout un tas de réalités contemporaines. Et ça, c'est aussi une des forces de la série, en fait, parce que toutes les séries ne peuvent pas être transposables comme ça. Donc c'est peut-être aussi le bon candidat pour une série à portée globale.
En tout cas, ils ont mis les moyens pour que ça réussisse, et c'est ça qu'on peut voir avec One Piece, contrairement aux séries d'avant, où on était sur quelque chose d'un petit peu plus limité. Il n'y a pas eu beaucoup de pubs, je crois, sur Death Note, sur toutes ces choses-là, c'était plus des kiffs de réalisateurs, j'ai l'impression, on leur a donné un budget, et vas-y, fais-toi plaisir, et en fait, on a juste vendu une licence, et puis ils ont fait ce qu'ils avaient envie. Là, on sent que l'implication, elle est à tous les niveaux, et justement, quand on voit la série, on voit qu'il y a énormément de détails, d'easter eggs, de références cachées, on sent qu'il y a une attention du détail dans la série qui tranche drastiquement avec ce qu'on a déjà pu voir dans le passé.
Je rebondis sur l'aspect de diversité de la série live, bon, qui est bien sûr présente hein, dans le manga, mais qui en fait se retrouve aussi dans toute la partie production. Les gens qui sont derrière et qui ont travaillé sur l'œuvre, rien que le co-showrunner Matt Owens, c'est un Afro-Américain.
Tout à fait.
Donc il se retrouve propulsé à la tête de cette série avec un budget de 18 millions par épisode. À la base, c'était quelqu'un qui bossait sur les comics, Marvel Comics. Il a fait un comics en tant que scénariste pour sur Elektra, si je dis pas de bêtises. Il a bossé aussi sur une autre série Marvel animée. Et donc là, il se retrouve à gérer One Piece. Voilà, je trouvais que c'était intéressant quand même de le dire pour l'information.
Oui, tout à fait. D'autant plus qu'il n'était pas hyper connu, tu vois, avant.
Non, non.
C'est son premier très gros travail, en fait, One Piece.
Ouais, c'est ça.
Et alors, la réception du public face à cette série, j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs étapes. J'ai l'impression qu'au départ, quand la première bande-annonce, ou c'était peut-être un teaser, quand il est sorti, il y avait quand même une bonne partie du public qui était méfiant, y compris, honnêtement, moi, en tant que, vous l'avez compris, très grand fan du manga. Quand j'avais vu les premières images, les premiers teasers, je me suis dit, ouais, bon, j'ai fait mon snob comme d'habitude. J'ai dit, ouais, c'est pas pour moi. Et je crois que beaucoup de gens étaient très sceptiques, même au départ, non ?
Ouais, même assez véhément hein, sur le teaser. Personnellement, moi, le premier, quand le teaser est arrivé, j'ai fait « Ouh, adapté One Piece, chaud, quoi !»
Après, c'est ma vision des choses, mais pour moi, ça a commencé ne serait-ce même qu'à l'annonce qu'il allait avoir une série live One Piece, même pas, il y avait une image que déjà, il y a eu une levée de bouclier. Ce que je peux comprendre, hein, vu l'expérience qu'on a des adaptations américanisées, ou en tout cas internationales, qui ne sont pas nécessairement purement japonaises. Moi, en tout cas, dans mon souvenir, dès qu'ils ont annoncé la série live, c'était là en mode « Oh, c'est bon, ça va être le flop
».
De mon côté, j'ai plus été rassuré quand j'ai vu la première bande-annonce. Quand j'ai vu la première bande-annonce, c'est ce que j'avais dit justement là. J'ai dit « Moi, je pense que la série ne sera pas mauvaise ». Peut-être qu'elle ne restera pas dans l'histoire, mais elle ne sera pas si mauvaise que ça. En tout cas, ça ne sera pas le gros déchet à jeter. J'ai l'impression quand même qu'il y a des choses intéressantes dessus. Mais beaucoup de public était encore sur le « on ne veut pas du One Piece, ouais. Ne touchez pas notre licence ». Il y avait vraiment un rejet total de cette adaptation. C'est ce que j'avais remarqué en tout cas sur les réseaux.
Moi, quand j'ai vu la bande-annonce, la longue bande-annonce avant que la série, juste avant qu'elle ne sorte, je me suis dit « bon ». Je vais peut-être quand même la regarder au moins. Je pense que ça va être de la merde, mais je suis suffisamment curieux pour regarder. C'est déjà un miracle. Et en fait, j'attendais, tu vois. Je commençais quand même à devenir curieux. Et je me souviens de des premiers retours des influenceurs, des gens qui avaient été payés pour aller voir aussi l'avant-première et qui et des journalistes aussi. Il faut le dire aussi, il y a des journalistes, des gens pas payés, enfin des professionnels, qui commencent à tweeter après l'avant-première. Ah, en fait, finalement, c'était pas mal. C'était, genre, tout n'est pas parfait, mais c'était pas mal. Et il y avait quelques personnes que je suivais dont j'apprécie l'opinion, qui commence à dire que c'est pas mal. Je me dis, tiens, si eux disent que c'est pas mal, c'est peut-être que ça vaut le coup que je regarde, quoi. Mmh. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de gens aussi qui ont commencé à changer d'avis ou qui ont été curieux. Et ils se sont dit, peut-être que ça vaut le coup que je regarde en tout cas un ou deux épisodes pour voir ce que ça vaut.
Et puis la série est sortie, et là c'était assez drôle les réactions. C'était un mode au début, ouais, c'est pas mal, peut mieux faire. Et puis finalement.
Les gens savaient pas trop en fait.
Ouais, ils osaient pas en fait, ils acceptaient pas qu'ils s'étaient trompés en fait sur la série, et que finalement c'était une bonne adaptation. Et qu'au fur et à mesure, les gens disaient, non, moi j'ai bien aimé. Et puis ces mêmes gens au bout d'un moment faisaient, ah non, mais One Piece est vraiment super l'adaptation. Et ça a totalement retourné son manteau pour après dire, ah ouais, non, trop bien, et tout ça. Et c'était assez drôle de voir justement ce côté de ne pas assumer ses premiers ressentiments sur la série et juste accepter que ben ouais, ils ont fait du bon travail au final.
Après, on veut pas non plus laisser croire que la série a eu des critiques dithyrambiques et qu'elle a fait l'unanimité. C'est pas le cas, mais globalement la série, déjà, c'est pas fait trasher, donc ça c'est la première chose surprenante. Mais en plus, elle a été plutôt bien reçue, y compris par une presse plutôt hostile à ce genre d'adaptation. Tu vois, elle a été bien reçue par Télérama, il y a tout un tas de journaux et de magazines qui en ont fait des critiques positives. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes chaud pour la saison 2?
Alors, globalement, je dirais que je suis positif sur cette première saison. Le premier épisode, j'ai adoré. Je le dis, je trouve que ça m'a renvoyé directement quand j'étais gamin et que je lisais pour la première fois le tout premier tome. Alors, il y a des choses qui sont un tout petit peu modifiées, mais c'est largement entendable. C'est une adaptation live. Il y a des choses qu'il faut modifier pour le rythme, dont la rythmique des premiers épisodes, elle est bien. J'ai adoré le casting. Alors, pour le casting, j'ai rien à dire. Pour moi, le casting, il est 5 étoiles. Là, c'est parfaitement l'esprit One Piece, je trouve, en tout cas.
Ouais, je suis d'accord.
Moi, en fait, je pense que la plus grosse critique que je vais avoir sur la série One Piece, c'est que on dit qu'il y a 18 millions en moyenne de budget par épisode. Je pense pas que ce soit le cas. C'est une moyenne qui est lissée. Je pense qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur certains épisodes et ça se voit. Je pense toute la partie au Barati, par exemple.
Je sais pas si ça, dans quelle mesure ça comporte aussi le marketing ou pas, tu vois, ce chiffre, parce que ça expliquerait certaines choses, tu vois.
C'est... Ouais, non, mais je pense que le marketing doit être compris dedans, c'est sûr. Et en fait, cette chose que je soulève là, pour moi, c'est le plus gros problème, c'est que je comprends qu'il y ait des impératifs de temps et de budget et de contraintes qui fait que tu dois faire des choix spécifiques pour avancer. Et je comprends très bien que tu mettes plus d'argent sur l'adaptation, par exemple, du Barati, qui va demander des effets spéciaux supplémentaires, des effets pratiques supplémentaires.
Donc il y a un bateau dans l'eau, hein, juste pour que...
Un bateau géant dans l'eau qui fait restaurant, c'est le petit arc avec Sanji. Le problème, c'est que on se retrouve avec un ventre mou, qui sont pour moi les deux épisodes de Pippo. Pardon, je suis un vieux de la vieille, pour moi c'est Pippo, c'est pas Usopp. Hein. Voilà, Usopp, pour parler plus récemment. Moi, cet arc-là, pour moi c'est un ventre mou. J'ai trouvé que c'était très long, ces deux épisodes, qu'il se passait pas grand-chose, que c'était pas nécessairement intéressant, même si, en prenant du recul, je comprends le choix. Parce que l'arc en lui-même, de base dans le manga, ça se passe juste sur un quai à côté d'un bateau. Donc à partir de là, pourquoi se prendre la tête? Autant faire un huis clos pour ne plus avoir les contrats de temps, par exemple, avec la lumière naturelle, et filmer autant qu'on veut rapidement. Donc je le comprends parfaitement. Le souci que j'ai, c'est que s'il y a des faiblesses d'écriture à ce moment-là, et le manque de budget se ressent. À mes yeux, en fait, j'ai eu, comment dire, un espèce d'ascenseur émotionnel où les deux premiers épisodes, je les ai trouvés top. J'ai eu un moment de flottement sur les épisodes 3 et 4, et ensuite, c'est remonté direct sur toute la partie du Barati et l'arc final des hommes-poissons avec Nami, même si, pareil, il y a certains hommes-poissons que j'ai trouvés qui étaient faits un peu avec le cul. Mais voilà, en tout cas, c'est mon avis, mais globalement, je suis plus positif que mitigé. J'attends énormément la saison 2, parce qu'en plus, la saison 2, on sait tous très bien, ça va être à la basta. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont adapter ça, parce que je pense que déjà, ça va demander encore plus d'effets pratiques et d'effets spéciaux qu'on en a eu dans cette saison-là. Et surtout Chopper. J'ai un peu peur avec Chopper.
Ouais, exactement. Ouais.
Et voilà pour mon avis. Globalement, je suis positif et j'ai hâte de voir la suite.
Et toi, Julien ?
Moi, de mon côté, j'ai beaucoup aimé l'adaptation. En plus, j'ai vu pas mal de façons japonaises d'autres choses avec beaucoup moins de budget. Donc, j'étais très, très agréablement surpris, autant par le casting, les décors et tout. Je te rejoins totalement sur l'épisode, justement, dans le manoir. Je pense qu'ils auraient juste fait le deuxième épisode à la plage, comme dans le manga. Ça aurait totalement cassé la dynamique, enfin, cet ennui de huis clos qui était vraiment long sur deux épisodes. Mmh. Mais malgré tout, on sent qu'au niveau du cast, j'ai vu pas mal de vidéos, justement, sur les coulisses. Et on voit que les acteurs sont vraiment impliqués dans One Piece. Il y en a qui ont appris des arts martiaux, il y en a qui sont déjà experts d'arts martiaux et qui ont appris à Sanji, tu vois, juste à taper avec les pieds, des choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça et tu fais ah waouh, quand tu vois le boulot qu'il y a derrière, c'est assez incroyable et on voit que les acteurs sont vraiment investis et c'est pas juste une série pour dire bah on l'a signé. Non non, c'est les mecs qui, même s'ils sont pas fans absolus, voilà, il y a qui ont pris des cours de cuisine et tout comme ça. Enfin, on se dit, enfin, pourquoi prendre 8 heures de cours de cuisine par jour pour juste couper deux trucs à l'écran, quoi. Ouais. C'est assez fou. Et pareil, j'ai beaucoup aimé le Barati, mais surtout là où j'ai vu que ça a plu, c'est que quand j'ai commencé à regarder, parce que moi j'ai vu le premier épisode, enfin j'ai peut-être commencé à regarder une semaine après tout le monde parce que j'ai toujours en décalé, hein, et je commence à lancer un samedi matin l'épisode, je me disais je vais regarder moi le premier, voir ce que ça donne, histoire de pouvoir en parler dans un live. Et là, au bout de 5 minutes, d'un coup j'ai ma compagne derrière moi qui vient, il fait Tu regardes quoi là? J'ai dit, ben, je regarde, ben, c'est One Piece. Et elle, elle lit pas du tout de manga. Je veux dire, elle en lit très très peu. Elle doit lire 2 à l'année à tout péter.
Ah, comme moi.
Exactement.
Et... oui, tout à fait.
Et là, elle me dit, ah, mais ça a l'air joli, ça me donne bien envie de regarder avec toi. C'est juste le début du premier épisode. Et donc, du coup, j'ai remis l'épisode. On l'a regardé ensemble et elle m'a dit, ah, oh, c'est génial. Et en fait, elle a regardé la saison entière. Et pire que ça, c'est qu'elle a rematé entièrement la saison, mais cette fois en français, pour voir d'autres trucs et tout ça. Alors, elle va pas passer au manga, c'est pas son intention spécialement parce qu'elle lit pas de manga, mais elle attend maintenant la saison 2 et elle a envie de continuer à découvrir la série. Et la dernière fois, on était dans une ville, dans un magasin, il y avait des figurines et j'ai dit, hey, regarde, elle me fait, ah oui, et là, elle reconnaissait les personnages. Alors qu'avant, je pouvais lui parler d'une amie, elle connaissait pas du tout, quoi. Maintenant, elle connaît tout le monde. Donc c'est ça qui m'a montré que vraiment c'était une adaptation qui pouvait fonctionner sur tout le monde, parce que voilà, ma compagne a directement accroché et elle veut la suite, quoi, alors qu'elle c'est pas une électrice de One Piece ou de manga. Et toi, Pedro?
J'ai un point de vue similaire au vôtre. Je vais pas répéter ce que vous avez dit. Je souscris totalement à ce que vous avez dit, y compris à cet arc avec Usopp qui est peut-être un petit peu moins captivant que le reste de la saison. Parmi les trucs qui m'ont un peu dérangé, en fait, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un côté un peu cosplay Japan Expo parfois dans les...
Il y a les perruques, ouais.
Les perruques, les costumes, tu vois, ça j'ai un peu de mal à rentrer.
Tu vois, par exemple, il y a un truc que, dans les trucs que tu dis là par rapport à ça, Nami, elle porte une perruque. Pourquoi elle porte une perruque alors que quand tu la vois avec ses cheveux naturels, c'est parfait.
C'est parfait, ouais. Après, tu vois, j'ai lu quelqu'un, je sais plus qui, qui disait sur Internet, part du principe que c'est un autre univers qui n'existe pas et les gens, ils peuvent être comme ça. Ils peuvent avoir des cheveux bizarres avec cette coloration bizarre.
Ils peuvent avoir des cheveux en plastique.
Non, mais et en fait, je me suis dit, en fait, j'ai essayé après, en regardant la fin de la saison, de me dire, bon, partons de ce principe-là. Et essayant de voir si j'arrive à un peu plus à accepter ces... Parce que c'est pas que Nami, tu vois. Il y a tout un tas de personnes qui ont des tenues... Bah, c'est One Piece, en fait. C'est le design de Oda. C'est des personnages très loufoques, extrêmement difficiles à adapter en prise de vue réelle. Et je pense qu'il y a ce truc où t'es obligé d'avoir un espèce de décalage un peu kitsch, tu vois. Peut-être que je vais m'adapter, peut-être que je vais m'habituer dans la saison 2. Ça me choque toujours un peu, quoi. Et je trouve aussi que c'est très inégal en termes de décor, en fait. Autant parfois c'est sublime, le Barati, on a parlé, c'est vraiment très bien fait. Autant parfois je trouve que c'est très pauvre. Certaines scènes de combat, quand tu vois l'arrière-plan, tu te dis mais il n'y a rien. Et parfois c'est très mal filmé aussi, je trouve.
Ah oui.
Il y a des plans qui ne sont pas très beaux.
Justement, dans l'arc de Pipo, je ne sais pas pourquoi, il se retrouve à filmer sur des gros plans des têtes avec l'arrière complètement flou.
Ouais, quand il est en mode FaceTime, ouais. En high fish comme ça, c'est assez bizarre, tu vois.
Ouais, je ne comprenais pas.
Et je me dis, bon, peut-être que c'est un truc expérimental, je ne sais pas. Mais par contre, ce que j'ai aimé dans cet arc qui est un peu en deçà par rapport au reste de la saison, c'est l'idée que tout d'un coup, ça devient une espèce de truc horrifique un peu. Tu vois, il y a une ambiance un petit peu d'horreur qui s'installe. Moi, je l'ai regardé avec ma nièce, en fait. Et à un moment donné, elle flippait un peu, tu vois. Et c'était assez rigolo de voir ça, quoi. que les enfants peuvent le percevoir aussi un peu différemment.
Après, j'ai beau critiquer cet arc de Usopp pour des raisons vraiment... Au final, c'est des raisons surtout techniques et d'écriture. Je tiens quand même à dire que l'arc tient la route grâce à Usopp, en tout cas à l'acteur qui joue Usopp, parce que je trouve que justement, il l'incarne vraiment bien.
Mais en fait, je pense qu'on peut dire, globalement, malgré des défauts qu'on peut mettre en avant, qu'on a un petit peu énoncé, on a quand même une appréciation qui est plutôt positive. On a passé un bon moment en regardant ces 8 épisodes de la saison 1. C'est bien adapté. Moi, je connais très très bien le manga. J'ai lu cette saga, donc ça adapte la première saga East Blue, que j'ai lu, relu plein de fois. Je trouve que c'est super bien adapté. Je trouve que c'est super bien adapté à un public, comme tu le disais, Julien, qui n'a pas lu le manga. J'ai eu ça aussi autour de moi, des personnes qui n'avaient jamais lu le manga, ils savaient ce que c'était, mais ils s'étaient jamais intéressés, et j'étais surpris de voir qu'ils se sont lancés dedans et qu'ils ont apprécié, de la même manière que j'avais été surpris il y a 15 ans en arrière quand des gens se sont lancés dans le MCU, tu vois. Des personnes autour de toi où tu te dis, ils vont jamais regarder des films de super-héros, et tout d'un coup, ils se lancent là-dedans. Et ça, je pense que c'est très positif pour eux et pour la suite.
Et d'ailleurs, au rayon des bonnes idées, je trouve, dans cette adaptation, j'ai plutôt apprécié le fait que Kobe soit beaucoup plus développé que dans le manga.
C'est vrai.
Dans l'arc East Blue du manga, on le voit pas trop, Kobe. On va le voir après dans les dessins d'interchapitres, voir ce qu'il fait pour arriver à ce qu'il est plus tard. Mais j'ai trouvé ça pertinent d'insérer des moments où on voit Kobe évoluer déjà dans la marine avec Garp, donc l'oncle de Luffy. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'acteur qui joue Kobe, donc Morgan Davis, c'est un homme transgenre. Donc encore une fois, au niveau diversité, il y a vraiment une tentative de parler au plus de gens possible.
Pour confirmer que c'est une bonne adaptation, c'est que pour l'instant, Nami n'a pas de nichon, comme le manga. Donc on verra si dans les prochaines saisons, sa poitrine augmente.
Normalement, c'est en fonction des saisons, faut qu'elle grossisse.
Voilà. Donc par contre, si ça ne change pas, il y a un problème au niveau de l'adaptation et je vais devoir baisser ma note.
Ah ouais, c'est pas fidèle. Donc, c'est un show qui, je pense, est parti pour s'installer.
Ouais.
On l'avait dit au début du podcast, il a déjà été renouvelé pour une seconde saison.
Bon, après, avec Netflix, on n'est jamais à l'abri.
Ah ouais, c'est sûr. Et Netflix, ils ont l'habitude d'annuler des séries sans pitié. Donc, en tout cas, il y a une deuxième saison qui est commandée. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Le showrunner, Matt Owens, il a déjà dit qu'il avait des idées pour faire 12 saisons. Bon, en même temps, on le comprend, il y a du matos. Quoi. Il y a un paquet de volumes encore à adapter. Il y a aussi cette idée qui avait été mise en avant par la production de faire des spin-offs. En fait, il y a des possibilités de spin-off à gogo dans l'univers One Piece.
Le showrunner, il aimerait faire un spin-off sur Mihawk.
Ouais.
Surtout.
Tout à fait.
Il y a eu aussi les mangas qui étaient gratuits. Les 12 premiers mangas qui couvrent justement cet arc étaient gratuits sur Internet. On pouvait les lire en ligne. Alors, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Alors, la qualité était pas ouf. Mais, on va dire, pour quelqu'un qui veut lire gratuitement, bon, c'était une possibilité. Donc, on voit qu'ils poussent, en fait, les gens à se dire, mais regardez, vous avez l'adaptation, lisez le manga et comme ça, vous le continuez en manga.
Ils sont plus agressifs que ne l'avait été, par exemple, Marvel, quand Marvel avait lancé le MCU en 2008. J'ai pas le souvenir qu'il y avait ça, en fait. Qu'il y avait autant, là, tout d'un coup, on te dit, bah, t'as les 12 premiers volumes du manga qui correspondent à la première saison de la série, tu peux les lire sur Internet gratuitement. Tiens, fais-toi un avis. C'est comme des dealers, en fait. Tu vois, tiens, ta première dose de crack, elle est gratos.
Là, pour le coup, c'est une grosse dose de crack.
Ouais. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est de voir, on l'a vu dans le succès, il y a eu beaucoup de vues. Ça vient des Américains aussi, hein, le temps que la série se propage, tout ça. Et ce qui est intéressant, un peu pour conclure, hein, je pense, sur ce One Piece Live, c'est l'impact au niveau mondial que ça peut avoir, et notamment sur le marché des US. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffres au niveau du marché des US. En tout cas, on n'a pas réussi à en trouver des chiffres officiels. Si on compare par rapport un petit peu à la France, si on s'imagine qu'ils vendent autant de mangas qu'aux US qu'on a pu vendre en France par rapport à la taille de la population. Donc c'est-à-dire que les US, par rapport à chez nous, c'est 5 fois plus d'habitants. Et je parle que des États-Unis, hein. Je parle pas du Canada, je parle pas de tout ça. Imaginons que là, ils vendent donc pas 30 millions comme nous, mais 150 millions de One Piece, ce qui est un chiffre tout à fait réalisable si la série fonctionne chez eux. Ça voudrait dire qu'en fait, aujourd'hui, One Piece ne se trouverait pas à seulement 20% des ventes à l'international, avec les US inclus, mais à 40%. Et ça, c'est un impact qui peut être énorme sur la suite de la licence. C'est-à-dire que quand presque la moitié des ventes représentent justement l'international, ça peut avoir des conséquences à la fois sur le merchandising, à la fois sur peut-être la suite de la série, comme la suite du live action. C'est une manne financière incroyable que là, Shueisha est en train de développer. Et si ce pari est gagnant, One Piece va exploser les records et pourra atteindre le milliard d'exemplaires vendus au bout de quelques années s'ils arrivent à conquérir l'Amérique.
Moi, mon repère pour savoir s'il y a un réel impact sur le sol américain, c'est s'ils font une adaptation jeu vidéo du live action de One Piece.
Ouais.
Comme Street Fighter, The Movie, The Game.
Un classique.
Un classique, oui.
Mais c'est vrai que quand on regarde, par exemple, les chiffres de la première semaine, les spectateurs qui ont vu aux États-Unis One Piece sur Netflix, c'est 739 000 spectateurs pour la première semaine. Ce qui, en fait, c'est pas un chiffre si élevé que ça. Donc, il y a moins d'un million de personnes aux États-Unis qui ont vu One Piece la semaine de la sortie. C'est ce que tu dis, Julien. Il y a encore un potentiel, un marché à conquérir. Et s'ils le font, ça peut vraiment porter la licence à un niveau qui n'a pas encore été atteint. Voilà pour la partie One Piece. On va maintenant passer au deuxième gros projet que la Shueisha nous a dévoilé durant cette rentrée de 2023. Ce deuxième gros projet, c'est la sortie d'une offre payante pour leur plateforme en ligne de lecture de manga, Manga Plus.
Bonko ! Bonko !
Alors, je vous propose maintenant qu'on passe au deuxième sujet, c'est-à-dire le changement qu'il y a eu dans Manga Plus. Alors, avant, peut-être rappelons un petit peu le service.
Ouais, c'est quoi Manga Plus ?
Alors, Manga Plus, c'est un service qui a été lancé donc, le 28 janvier 2019, d'accord, par donc, la Shueisha. Donc, c'est une application qui permet de lire les titres de la Shueisha en ligne, et notamment les derniers chapitres du manga phare de leur catalogue. Donc, ce n'est pas le catalogue complet, ça reste une sélection de mangas, mais ça avait été lancé partout dans le monde, sauf dans quelques pays. Mais il fallait surtout retenir qu'il y avait donc plusieurs langues à l'intérieur. Il y avait de l'anglais, de l'espagnol, du portugais, du français, enfin il y avait plusieurs langues dedans. Mais le catalogue n'était pas le même selon la langue. Majoritairement, elle était quand même axée pour le marché anglophone. Et on avait très peu de titres, notamment en français. Les titres en français sont arrivés un petit peu plus tard chez nous de manière très limitée. Alors c'est une action qui était clairement contre le piratage. Et aussi pour le fait que le magazine papier se vend de moins en moins, ça leur permettait aussi d'avoir une alternative, je pense, plus rentable à terme, et peut-être un jour arrêter la version papier. On y arrive doucement pour que les gens basculent vers l'application. De manière générale, ça a été, j'ai l'impression, très bien accueilli. Il y a que Glénat qui a voulu lui faire son site à lui avec Manga Max Plus, hein, je crois qu'il s'appelle, où on peut retrouver en fait les mêmes chapitres qui sont publiés sur Manga Plus et sur le site de Glénat. Donc ça, c'est la seule particularité. Mais quand c'était d'autres éditeurs français, ils étaient directement disponibles sur Manga Plus. Alors, il faut faire attention, au début de Manga Plus, tout n'était pas disponible. C'est-à-dire qu'on avait les trois premiers chapitres gratuits à lire et les trois derniers, pareil, gratuits à lire. Et puis au fur et à mesure, l'un chassait l'autre. Au niveau du marché anglophone, ils ont rajouté un nouveau fonctionnement, c'est-à-dire qu'on pouvait lire une fois tous les chapitres intermédiaires qu'il y avait. Donc typiquement, voilà, on prenait la dernière série en date, mettons, c'était Mashle qui était en cours, on avait les trois premiers, on avait les trois derniers chapitres en accès gratuit et tous les chapitres entre, on pouvait lire qu'une seule fois. Mais une fois que c'était lu, on ne pouvait plus rien faire. C'était même bloqué.
Mais juste, ça, on l'avait en français ou c'était que en anglais ?
Et ça, c'était qu'en anglais, justement. En français, on ne l'a pas.
En français, on a une offre pas ouf. Hein.
Non, et d'ailleurs, rappelez-vous, on avait fait justement un épisode dessus où on expliquait que on avait des chapitres qui étaient à jour au Japon, mais la publication française n'était pas à jour. Donc, on était, dans tous les cas, obligé de passer par une phase de piratage pour pouvoir être à jour et pouvoir lire les derniers chapitres en français. C'est un petit peu dommage de ne pas au moins avoir proposé l'équivalent pour aller jusqu'à ça. Ça pousse aussi pas mal la rétention, hein, puisqu'on est obligé de revenir chaque semaine lire son chapitre. Sinon, ben, on risque de ne plus pouvoir le lire à ce moment-là. Et typiquement, ben, moi, à un moment, je suivais un petit peu Chainsaw Man, puis j'ai raté les chapitres et c'est là où j'ai arrêté de lire les derniers chapitres de Chainsaw Man en français. Je me suis dit, bah, tant pis, je continuerai la publication en papier parce que j'étais pas assez régulier, bah, c'est pas mon mode de consommation. De manière générale, l'application, il faut savoir qu'elle est très simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compte à créer. On peut directement lire en fait les chapitres. Tout se fait au niveau du matériel, c'est-à-dire que si on installe l'application sur notre téléphone, il n'y a pas possibilité de récupérer ses favoris, il n'y a pas possibilité de savoir qu'est-ce qui a déjà été lu, etc. Donc c'est vraiment un fonctionnement qui est un peu, comment dire, très très simple, un peu trop simple même des fois, mais qui est fonctionnel.
Et on peut lire sur un navigateur web quand il s'agit de l'offre gratuite, en fait. L'offre gratos, elle est disponible sur le site internet de Manga Plus.
Tout à fait.
Contrairement à l'offre payante dont on va parler après.
Alors, la qualité était pas mal, même si clairement elle est améliorable. C'est vrai que moi, j'ai pu voir quelques chapitres. Il y a des fois, bon, il faut pas non plus être trop exigeant sur la qualité des fichiers. Mais en même temps, c'est un service qui est gratuit et qui est légal. Donc, d'un côté, c'est quand même agréable d'avoir des traductions officielles sur les derniers chapitres qu'on a envie d'avoir. Et récemment, justement, il y a l'arrivée cette fois d'une nouvelle offre qui va combler un petit peu certaines lacunes de l'application, mais du coup qui ne va pas arrêter son offre gratuite, parce que l'offre gratuite y est toujours, mais qui va la compléter avec deux offres payantes.
Alors effectivement, la Shueisha a lancé une offre payante le 4 octobre 2023, donc c'est tout récent. Comme tu l'as dit, Julien, l'offre gratuite, elle reste inchangée. Vous pouvez continuer à lire vos titres, soit sur l'application, soit sur le site internet. Mais là, en plus, il y a cette offre payante qui est uniquement disponible en anglais, pour l'instant, c'est la seule langue qui est prise en considération, et qui est uniquement disponible aussi sur l'application. Donc vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre en allant sur un web browser sur votre ordinateur. Et en fait, il y a deux offres. C'est les offres Max, Manga Plus Max, et il y a l'offre Max standard qui coûte 2$ par mois et qui vous permet d'accéder à 6000 chapitres qui sont répartis en 80 séries. Et il y a une offre Deluxe, Manga Plus Max Deluxe, à 5$ par mois, qui vous permet de lire 15 000 chapitres, donc c'est plus du double, et qui sont répartis en 110 séries. C'est l'offre la plus complète. Et alors, quand on regarde comment se partagent ces séries, pour l'offre standard, qui est à 2$. Donc on a accès à toutes les séries qui sont en cours et uniquement en cours. Mais à partir du moment où ces séries se terminent, elles basculent dans la catégorie séries terminées. Et pour accéder aux séries qui sont terminées, alors là, il faut passer dans l'offre Deluxe à 5$ par mois. Donc typiquement, par exemple, si vous voulez lire Bleach, Naruto, Dragon Ball, qui sont toutes des séries disponibles sur Manga Plus, s'agissant de séries terminé, vous ne pouvez pas les lire avec l'abonnement à 2$ par mois, il faut prendre obligatoirement l'abonnement à 5$ par mois.
Juste parenthèse, on est bien d'accord que tu peux quand même lire toute la série, même sans payer.
Et bien maintenant, c'est terminé.
Ah, c'est terminé.
Voilà, c'est terminé, c'est-à-dire que maintenant, tu es obligé de passer au standard ou au deluxe. En fait, tu peux le lire une fois sur les séries en cours, et après, tu dois passer sur le standard. Par contre, si la série est terminée, il faut être directement abonné. Donc Dragon Ball, typiquement, tu as les trois premiers chapitres gratuits, et ensuite il faut être abonné pour lire la suite. Par contre, si tu prends une autre série en cours, typiquement Akane Banashi, là cette fois tu vas avoir les trois premiers et trois derniers gratuits, et tu vas pouvoir lire une fois le premier chapitre, et ça va passer après en mode, il faut être en standard pour pouvoir le relire.
Donc typiquement, moi j'ai eu un peu le même cas de figure que toi, Julien, quand tu parlais de ton exemple de Chainsaw Man. J'ai fait l'abonnement standard parce qu'il y a un mois gratuit. Vous pouvez tester si vous voulez pendant un mois gratuitement. Et je me suis dit, ah bah cool, je vais lire Mashle. Sauf que j'avais mal pensé ma stratégie. Mashle est terminée et donc est passée en offre de série terminée. Donc je peux pas la lire. Je suis obligé de prendre l'abonnement à 5$ par mois. Ce qui fait qu'une série comme par exemple Hunter x Hunter, comme elle ne sera jamais terminée, vous pouvez toujours la lire en offre standard.
Pour une fois qu'il fait bon d'être fan de Hunter x Hunter.
Et je dis ça, mais est-ce que Hunter x Hunter est disponible dans le catalogue?
Oui, pas. Si.
Il est disponible.
Et tu vois, je trouve qu'il y a quand même des petites dérives, entre guillemets, parce que Boruto qui a entamé sa partie 2, donc Boruto partie 2 est dans l'offre max standard, parce que c'est en cours, mais la partie 1 est considérée comme donc une autre série, et on peut la lire que dans l'offre max deluxe.
Après, on pourra te dire, si t'es rapide, tu payes 5 balles, et tu lis tout en un mois, et ça t'aura coûté que 5$ ou 5€ de lire toute la série.
Tout à fait, ouais. Oui, tu peux binge-reader tout ça, et puis voilà quoi. Quand on avait regardé l'offre, on a dû un peu se casser la tête pour comprendre l'offre, en fait. C'est-à-dire qu'elle est finalement pas si simple que ça à comprendre.
Ouais, et peut-être que nos explications sont pas hyper claires pour les gens aussi, tu vois. Parce que tu dois quand même... Je pense qu'il faut comprendre le truc de série terminée, série en cours. Et dès que t'es dans la série terminée, tu passes à l'offre Deluxe, c'est plus cher. Et série en cours, c'est que, entre guillemets, 2$ par mois. Il y a déjà ce truc à capter, tu vois.
Si j'avais pas connu le fonctionnement avant les offres payantes, je suis pas sûr que j'aurais compris la relecture des chapitres une fois, qui passe en standard, qui ne l'est pas. Enfin, il aurait fallu vraiment explorer ce selon la série. Et même au niveau de l'offre, je trouve pas que c'est super clair. Déjà, on parle d'offre max, et dès qu'on va sur les offres, le terme max disparaît pour être standard et de luxe. Et moi, j'étais là, je fais, mais c'est quoi le max? Moi, je veux être au max, il est où? Et je comprenais pas. Mais vraiment, c'était pas clair du tout, quoi.
T'es au max, mais t'es au max juste normal, tu vois, standard. Et après, tu peux être au max de luxe. Et peut-être qu'après, il y aura max ultimate, en fait. On sait pas, on va voir.
Et on précise aussi que ce n'est que pour le catalogue anglais. Hein, c'est important, hein, c'est là-dessus, si vous... pour le français, ça ne change rien aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, peut-être qu'on peut préciser deux, trois choses sur le catalogue. On a passé du temps sur cette offre pour voir qu'est-ce qu'il y avait de disponible. Quand on prend, par exemple, l'offre de luxe, hein, on va prendre Max de luxe, qui est l'offre la plus complète avec 110 séries. En fait, il s'agit essentiellement de séries de ces dernières années. C'est des séries qui sont en cours et celles qui sont terminées se sont terminées récemment, à quelques exceptions près. Donc, il y a Dragon Ball, qui est une série qui s'est terminée il y a déjà plus de 20 ans. Il y a Naruto, il y a Bleach, mais ça reste des exceptions. Vous n'allez pas du tout encore trouver une offre old school, par exemple. Si vous voulez lire des titres des années 90 ou des années 80, du Jump ou d'autres magazines de la Shueisha, vous n'aurez pas encore ça actuellement.
Alors, c'est vrai que le système a quand même beaucoup de limitations, hein, comme on disait. Il y a aussi, bon, pas d'offre web, ça on en avait parlé, mais même au niveau des applications de desktop, ça n'existe pas, parce que du coup, on se dit, on va prendre une application. Alors, en réalité, on peut avoir une application sous Mac, mais c'est la version iPad, en réalité, qui s'ouvre. Mais on va dire qu'on a une petite alternative, mais rien sur PC. Et le fait que ce soit un truc très à la japonaise, on est obligé de passer, comme Pedro disait, par l'app in-app, un achat in-app, pour pouvoir le retrouver, mais on n'a pas de compte, on n'a pas de bouton partage, il n'y a pas de communauté. L'offre, elle est quand même pas hyper optimisée, sans parler de l'interface qui a toujours été un peu dégueulasse, hein. Pour rechercher des titres, pour naviguer, c'est un peu une plaie, hein, je trouve, dans cette application.
L'interface, pour l'instant, elle est pas du tout optimisée, je trouve. T'as ce truc recherche, et démerde-toi. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas une curation, par exemple, qui est faite pour vous aider. Comme les offres de streaming vidéo, Netflix et compagnie, ces plateformes qui vont vous aider à faire des sélections, tout ce travail-là de curation, il n'est pas encore fait, en fait. Tu vois qu'on est vraiment encore dans un truc qui est vraiment une V1, et il y a encore beaucoup de progrès à faire.
Ouais, c'est juste une base de données, quoi.
Oui, c'est ça.
On t'a tout balancé avec des vignettes. Et voilà.
C'est une grosse, ouais, c'est ça.
Finalement, pour une application qui, pour moi, est censée prendre la relève des futures années du magazine du Jump, il y a très peu de moyens dans cette application, au final. Et ils sont deux développeurs, je pense, qui se battent là pour développer ça.
Quand on avait déjà abordé la question de Manga Plus dans Bunko il y a 2 ans, je crois, en fait, au moment où ça sortait en France, on avait expliqué, selon nous, c'était vraiment la phase de test avant le lancement d'une offre commerciale. Voilà, on arrive à ce moment-là. C'est le début de l'offre commerciale. Ils testent avec le marché anglais, parce que c'est le marché qui peut potentiellement toucher le plus de monde. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est surprenant le peu d'avancement qui a été fait entre l'offre initiale et l'offre payante maintenant. Parce que l'interface, c'est la même, elle est toujours aussi basique. Et je trouve qu'il y a assez peu de travail derrière, d'optimisation du truc. Tu disais, Julien, que c'est très contraignant pour l'instant de lire, d'utiliser cet abonnement. C'est ultra contraignant parce que moi, par exemple, je l'ai testé avec mon iPad. J'ai un iPad et j'ai pu tester l'offre gratuite pendant un mois, enfin le max standard gratuit pendant un mois. Mais déjà, il faut avoir une tablette, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce que sur smartphone, ça reste quand même chiant, quoi, de lire...
C'est pas adapté, oui.
C'est pas adapté, tu vois. Et le truc que tu ne puisses pas lire sur ton écran d'ordinateur, c'est assez étonnant, en fait. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait un système de login comme n'importe quelle entreprise de streaming vidéo où tu te logues.
Et puis imagine si t'as des systèmes différents où justement tu préfères avoir une tablette Android, par exemple, et t'as un iPhone ou machin. Tu ne peux pas, en fait. Tu ne peux... Il faut choisir ton combat, en fait, derrière.
Ah mais ouais, j'avais pas pensé à ça, ouais. Tu dois acheter deux fois l'abonnement.
Exactement.
En fait, si tu veux.
D'un côté, ouais. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas plus mal que pour l'instant, il n'y ait pas de compte un peu externe sur lequel on doit se connecter, parce que vu la tête de l'app, j'ai pas l'impression que la sécurité soit un truc de ouf.
Ah non, mais c'est sûr. elle bug pas mal. Je l'ai lu, ça fait un mois que je l'utilise hein, en offre max. Elle est constamment mise à jour. Tu vois qu'ils sont en train de travailler dessus et ça plante un peu des fois. Hein. En tout cas, sur mon iPad, parfois ça plante. Donc clairement, on voit qu'on est au début d'un truc. Hein. C'est le début d'une offre. C'est quelque chose de nouveau pour eux. Ils sont encore, je pense, en train de tâtonner, en train d'améliorer le service. Mais c'est clairement un pas qui est fait, un pas en avant qui est fait pour cette offre numérique.
Surtout, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un prix qui est super agressif. Parce qu'au final, 5 euros par mois, c'est pas non plus une grosse somme pour des titres les plus attendus du marché. Hein, parce que c'est quand même des énormes licences hein, qu'on parle. Hein, c'est celles qui sont le plus consultées pour les fans de manga. Et en plus, ça permet d'avoir un réel accès mondial au catalogue de l'éditeur. Parce qu'avant, on avait certes la possibilité de lire une fois les chapitres, mais c'était assez limitant. Surtout si, je sais pas, on en a fait une erreur erreur, on a fermé, et puis finalement, ou même on voulait revenir sur un chapitre, on peut pas. Là, juste déjà à 2 voire 5 euros, on peut lire énormément de choses, et le catalogue va s'alimenter au fur et à mesure derrière. Donc ça peut être une super base de données. Le jour où Shueisha décidera de mettre des titres un peu plus vintage, parce qu'au fur et à mesure, ils ont remasterisé des séries, ils les ont retrouvées, ça va faire vraiment un catalogue incontournable qui peut proposer sa propre offre de son côté, sans essayer d'avoir une offre globale avec notre éditeur. Et c'est là où on pourrait se poser la question, il y a pas mal de questions qui se posent là-dessus, c'est typiquement, la Shueisha avait mis une partie de son catalogue sur Manga.io en France. Et on pourrait se demander, mais ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est la fin d'un partenariat ? Ou est-ce que c'était peut-être un test de leur service, voir un peu le retour, notamment en France, même si je me doute que le marché français n'est pas représentatif du tout du marché international. Personnellement, je pense que l'un et l'autre peuvent coexister, hein, parce qu'au final, c'est deux beaux outils de promotion. Hein. Tu vas lire ton Naruto sur Manga.io, le jour où la licence s'enlève parce que c'est temporaire, hop, tu passes sur Manga Plus, et puis finalement, tu t'abonnes et tu continues là-bas.
Mais c'est vrai que la question se pose, tu vois, parce que pour l'instant, je crois qu'on peut toujours lire Naruto sur Manga.io.
Oui, en français. Tout à fait, oui.
Et donc, le jour où cette offre, parce qu'elle va arriver sur le territoire français, francophone, peut-être même, je pense, l'année prochaine, en fait, à mon avis, on va assez rapidement voir la version française de cette œuvre. Est-ce que Manga.io aura le droit, même, tu vois, parce qu'en fait, c'est une partage de droits, en fait. Est-ce qu'ils peuvent continuer à offrir Naruto? Et d'une manière générale, tu vois, il y a eu beaucoup de titres de Kana chez Manga.io qui sont des titres de la Shueisha. Est-ce qu'ils pourront continuer à le faire? Ou est-ce que, comme tu le dis, de manière un peu cynique, est-ce qu'ils ont juste fait faire le travail de socialisation à la lecture numérique des Français par Manga.io? Tenez, les lectrices et les lecteurs français, habituez-vous à lire sur Manga.io, on débarque avec la grosse offre.
C'est possible, et c'est pareil, c'est au niveau des droits, c'est compliqué en France, parce qu'on sait que chaque traducteur a un droit sur son travail, contrairement aux autres pays. Et ça va être encore plus compliqué d'avoir ce genre d'offre en France, parce qu'aujourd'hui, bon, ben là, on est là en mode, bon, super, une nouvelle offre, mais ça reste quand même pour un marché international, mais pas pour la France.
Si je dis pas de bêtises, pour les 15 titres qu'il y a en France, donc traduits en français, les traducteurs, c'est les traducteurs des mangas reliés.
Tout à fait.
C'est travailler avec chaque éditeur français, oui.
Je me dis, la mise en place et le boulot que ça doit être...
Oui, c'est compliqué. Et c'est pour ça que remettre toutes les traductions, ça veut dire payer les traductions françaises pour qu'elles soient sur l'application Manga.io. Et donc, les Japonais vont se dire, est-ce qu'on repaye une traduction ou est-ce qu'on paye des droits à des Français parce que chez eux, leur législation reconnaît le traducteur bien différencié des droits globaux de la licence.
Moi, mon avis, c'est que pour les séries en cours, de toute manière, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent les mettre sur Manga.io, c'est tellement verrouillé au niveau des droits en France que je pense qu'ils n'ont pas le choix. Par contre, pour toutes les nouvelles séries plus tard, s'ils veulent pas s'embarrasser de contrats supplémentaires, ils se prennent leur traducteur en interne. Hein.
Mais même sur Manga Plus, imagine une nouvelle série.
Oui, pardon, je veux dire Manga.io, mais je parle de Manga Plus.
Ils pourraient tout à fait se passer d'un traducteur. Ils embauchent des traducteurs, mais il y en a plein qui vivent au Japon. Ils les payent grassement pour ça. Ils peuvent traduire leur truc, le diffuser avec Manga.io et finalement vendre des livres physiques aux éditeurs français qui ne font que passe-plat en fait. Non, vous avez notre traduction officielle par nos traducteurs à nous. Vous avez notre licence, vous payez et vous.
Ça, je pense que ça, si ça va vers ça, ça va pas bien passer.
Ah, c'est chaud.
Et honnêtement, on pourrait aller vers là parce que qu'est-ce qu'ils ont à perdre ? C'est eux qui ont la licence, c'est eux qui fabriquent le produit, c'est eux qui fabriquent le pognon. Si tu veux une part du gâteau, tu te plies aux règles. C'est un peu ça. Et je pense qu'il doit y avoir une peur des éditeurs d'aller doucement vers là, en fait. Notamment sur les gros succès qui sont de plus en plus chers et de moins en moins rentables.
Parce que la lecture numérique, on y va. Je sais que c'est un sujet un peu tricky et que la plupart des gens, y compris les gens qui nous écoutent, n'aiment pas la lecture numérique.
Avec Julien, maintenant, ça commence à rentrer, hein, j'ai l'impression.
Alors, le lobbyisme de Julien, ça fait quelques années. Je pense qu'il y a un petit pourcentage de lectrices et de lecteurs qui sont convaincus maintenant.
Ceux qui sont passés en numérique sont heureux maintenant, dans leur vie.
Mais en fait, c'est ça. C'est aussi beaucoup des personnes qui n'ont pas eu la bonne expérience, tu vois. Parce que, en fait, ça coûte de la thune. Il faut avoir la bonne tablette, c'est cher d'acheter une tablette. Moi, j'ai un iPad Air de Bourges, mais tu vois, le gars de 13 ans, il va peut-être pas avoir son iPad Air qui va lui apporter un confort de lecture suffisant pour lire des mangas, quoi. Mais ça, je pense que c'est quand même une orientation vers laquelle on tourne. Et l'offre ne peut, aujourd'hui, vous l'avez compris, elle est quand même un peu limitée, cette offre, elle est quand même un peu bancale. Mm. L'application est pas fofolle, mais elle est amenée à se développer et elle ne peut que s'améliorer, en fait, à partir de cette base.
Moi, je vous dis qu'on va vers une syndication des traducteurs dans les années à venir...
Ah, mais ce serait très bien qu'ils apprennent un peu aux Japonais à se syndiquer.
En tout cas, voilà, ça risque à terme de faire des changements au niveau, en tout cas, de l'impact, de la manière de vendre leur licence, de communiquer sur leur licence, à la fois parce que l'application est une énorme porte de promotion pour les nouvelles licences, avant même que ça arrive dans les pays en physique, tu peux déjà tout lire sur l'application au plus proche du Japon avec une traduction officielle. Et ça, ça va avoir un énorme impact. Et je pense que tout doucement, il y a beaucoup de règles qui vont changer, à la fois au niveau de la gestion des droits, des traductions, autant en l'international qu'en France. Et nous, en tant que lecteurs, ça ne devrait pas changer grand-chose parce que si tu veux ton livre, tu l'achèteras toujours. Mais je pense qu'au niveau des éditeurs, le game va changer. Quand la Shogakukan va commencer à faire la même chose, quand tout le monde va commencer à faire la même chose, je pense qu'il y en a qui vont pleurer du sang bientôt.
Après, j'ai envie de te dire, si la Suyesha, et c'est horrible de dire ça, mais bon, si la Shueisha se décide à prendre ses propres traducteurs en interne, ou en tout cas gérer la partie traduction, c'est toute une infrastructure et une logistique en moins à gérer pour les éditeurs français.
Après, tu vois, je pense pas que la Shueisha aujourd'hui ait les structures adéquates pour faire ça. Ça reste une petite, entre guillemets, entreprise, même si, entendons-nous bien, c'est une entreprise qui appartient à un énorme groupe, le groupe Ito Tsubashi, de maison d'édition au Japon, mais la Shueisha en tant que telle, les infrastructures de la Shueisha sont pas si grandes que ça, mais voilà. Cette nouvelle offre, c'est clairement une stratégie d'expansion et de contrôle supplémentaire de leur licence sur les marchés étrangers, et je pense que ça va s'accentuer avec les années.
De toute façon, il faut bien s'attendre à quelques années un petit peu de stagnation pour voir un petit peu tester le résultat, et puis dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, il va y avoir tout le temps des nouvelles actions qui vont être faites petit à petit pour faire cette transition.
J'ai aucune idée si ça marche ou pas. J'ai pas l'impression que, je sais pas, sur les réseaux sociaux anglais, que les gens sont en délire avec cette offre, tu vois. Je sais pas si ça marche bien.
J'ai aucun chiffre aujourd'hui. En tout cas, on avait déjà pu en parler dans le passé, hein, dans une émission, justement, sur l'arrivée de Manga Plus et des potentielles conséquences que ça pourrait arriver. On avait déjà évoqué l'abonnement qui allait clairement arriver. Et là, ben, on voit que la stratégie est en train de se mettre en place. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais c'est à surveiller de près parce que ça aura clairement des conséquences dans le futur.
Tout à fait. Et ce qui nous amène dans la troisième et dernière partie thématique de cet épisode, qui est justement de parler donc de ces deux faits isolés qui sont l'arrivée de la série One Piece et l'arrivée de l'offre payante Manga Plus Max, et qui s'inscrivent en réalité dans une stratégie d'expansion et de contrôle des licences de la Shueisha à un niveau plus global. Alors maintenant, on va un petit peu essayer de prendre un peu de hauteur et de voir quelles seraient les perspectives d'avenir pour la Shueisha.
Bongo!
Bongo!
Alors cette stratégie d'expansion, évidemment, elle date pas d'aujourd'hui. C'est pas juste ces deux nouveaux projets dont on parle qui démontrent une stratégie d'expansion. Il y avait déjà une multiplication au cours de ces dernières années d'actions qui visaient à promouvoir les licences de la Shueisha dans des milieux où parfois elle n'était pas présente jusqu'ici, avec pour objectif d'imposer comme ça les licences Shueisha à un plus grand nombre. Je pense par exemple à Fortnite. Vous vous rappelez quand tout d'un coup Fortnite a commencé à avoir des licences de la Shueisha qui sont apparues, donc des skins de Naruto, qui avait choqué beaucoup de personnes, parce que c'était inconcevable. Si on avait dit ça à quelqu'un 5 ans auparavant, que tu pouvais jouer à Fortnite en mode Naruto, que tu pouvais être Vegeta et avoir un gros gun et défoncer son Goku.
Mais c'est vrai que ça avait choqué beaucoup de monde. On comprenait même pas, en fait. Nous, tout ce qu'on voyait à l'époque, à ce moment-là, c'était « Oh, ils ont sorti la valise habillée, et puis qui est allé avec un cargo habillé, et puis vas-y, prenez, et puis on intègre vos personnages. » Mais c'était pas le but premier, en fait.
Il y avait une image qui m'a fait rire, qui a tourné pendant un moment sur les réseaux sociaux et surtout sur Reddit, où tu vois, en fait, c'est Rick, de Rick et Morty, en train de courir et il porte sur son dos Kakashi qui est KO. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce jeu, en fait?
Et c'est vrai qu'on a vu la multiplication des licences Shueisha dans Fortnite au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, on fait même plus gaffe. Quand Dragon Ball est arrivé, ça fait un peu de bruit, etc.
Ouais, ça s'est rapidement normalisé.
Mais maintenant,
tu vois,
c'est normal, en
ouais,
fait.
Dernièrement, il y a eu Jujutsu Kaisen.
Aussi, ouais. Il y avait eu d'autres jeux vidéo aussi dans le passé où la Shueisha avait vachement misé sur son image de marque avec des jeux de combat. Jump aussi, hein, où les héros de chaque manga se foutaient sur la gueule dans des jeux de combat. Il y a eu pas mal d'itérations de ça sur portable, sur des consoles assez récentes. On peut voir que depuis longtemps, des produits dérivés à gogo de partout, des boissons, des agendas, des mugs, des figurines, des cartes à jouer, etc. La fois, j'étais même surpris. J'allais au Leclerc, espace culturel, pas loin de chez moi. Et là, je vois une figurine de Sangoku, taille réelle, le truc de 2 mètres de haut. Et le Sangoku, en plus, où c'était le Sangoku de Super Saiyan face à Freezer, tu sais, avec tous les vêtements déchirés, mais avec les cheveux bleus. J'avais pas l'impression de le resituer dans Dragon Ball Super. Et en bas, je vois le prix, et c'était de mémoire 6 ou 7 000 euros la figurine. Et ça, en plein milieu, à travers d'autres goodies, comme ça, quoi.
Il y avait la variante Vegeta à Lausanne aussi, à la Fnac.
Et c'est assez incroyable de voir ça, un truc que j'aurais jamais vu dans le passé, dans un espace culturel ouvert au public à tous, en fait.
C'est vrai qu'aujourd'hui, ces produits dérivés des licences Shueisha sont absolument partout. Tu vas les trouver, tu disais Leclerc, c'est exactement ça. Tu vas dans ton supermarché... au fin fond de la province, bah, tu vas trouver les boissons Dragon Ball Super, les sodas Dragon Ball Super. C'était inconcevable, même quand nous, on était gamins, à la période où Dragon Ball était vraiment au top de sa popularité. Tu n'avais pas autant de produits dérivés qu'aujourd'hui.
Je pense que Shueisha, en fait, a compris qu'ils avaient vraiment de l'or sur les mains à un niveau mondial et qu'il y a une stratégie, en fait, d'iconisation dans notre imaginaire collectif, de positionner tous ces personnages de manga assez reconnaissables, peut-être même à un niveau similaire aux héros de comics, je pense au MCU. Il y a eu quand même une stratégie de la part de Marvel depuis 2008 qui a quand même bouleversé la pop culture. On voyait quand même certaines années que dans le top 10 du box-office, c'était des films Marvel qui étaient là. À quel point ça peut être un exemple pour la Shueisha, je sais pas. Mais j'imagine quand même qu'il y a une forme de prise en compte de ces stratégies qui ont été mises en place par Marvel.
Il y a surtout que Shueisha va s'inscrire aussi dans ce qui se passe aujourd'hui dans les grosses sociétés. Avant, les grosses sociétés, quand elles voulaient se diversifier, elles faisaient d'autres produits. Tout simplement. Tu prends Samsung, ben il va faire des lave-linges, il va faire des voitures, il va faire des télés. Il diversifie comme ça. Aujourd'hui, il y a un gros changement de paradigme qui se fait chez les entreprises. C'est-à-dire, comme Nintendo l'a fait récemment, ils ont dit, on n'est pas une entreprise de jeux vidéo, on est une entreprise de divertissement. Et ça, ça a une différence majeure dans la perception de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, les Netflix, les Amazon, tout ce que vous voulez, en fait, ils sont pas là pour vous proposer un service, pas là pour proposer un produit. Ils sont là pour proposer une expérience. Ils sont là pour proposer un univers. Et aujourd'hui, quand vous parlez de Netflix, c'est pas juste regarder des séries et des films. Il peut y avoir des produits dérivés. Typiquement, ils sont en train de développer des Netflix House avec des justement de retrouver l'univers de ces séries, etc. Et la Shueisha fait exactement la même chose. Alors, de tout temps, ils ont fait des produits dérivés avec des figurines. Hein. C'est pas d'aujourd'hui hein, que ça existe. Mais le fait de multiplier les films d'animation, le fait de faire de plus en plus d'événements, de faire des jeux vidéo, justement de faire cette diversification-là pour créer une sorte d'univers unique où on se dit, en fait, aujourd'hui, je suis dans l'univers de la Shueisha. Et c'est ça qu'ils essayent de mettre en place, d'inscrire cet univers-là, cette expérience-là au sein des clients, quoi, simplement des consommateurs.
Et il faut dire aussi que cette stratégie-là, elle s'inscrit dans un moment où il y a une concomitance entre cette volonté d'inscrire les licences Shueisha à travers des produits dérivés de plus en plus forts, notamment dans les pays occidentaux, et puis dans beaucoup d'enseignes culturelles. Je pense par exemple, je vais pas faire la promo de la Fnac, tu vois, c'est un exemple que j'ai en tête, où dans ces enseignes culturelles, en fait, il y a de moins en moins d'espace qui est alloué pour les rayons Blu-ray, les rayons DVD, les rayons jeux vidéo aussi qui diminuent en taille. Il y a presque plus de CD musicaux. Et en fait, il y a de plus en plus d'espace qui avant étaient alloués à ces produits-là, qui maintenant sont alloués aux produits dérivés. Je pense qu'on consomme plus de produits dérivés dans un pays comme la France ou en Europe aujourd'hui qu'on en consommait peut-être il y a 10 ans, tu vois. Même les produits dérivés de Netflix, t'en vois beaucoup maintenant. Les mugs de je sais pas quelle série,
Stranger
les
Things.
T-shirts, ce genre. Tu vois que ça, tu vois. Et évidemment, la Shueisha, ils volent une petite part du gâteau et ils occupent cet espace-là.
Mais là, en plus, avec toute la partie super-héros qui s'essouffle un peu, là, avec la phase 4 du MCU, elle a été très mal reçue. Shueisha, on pourrait se dire qu'ils ont un peu une carte à jouer aussi durant cette période pour s'imposer un peu plus rapidement qu'ils auraient pu le faire des années avant.
En tout cas, il y a un parallèle, je trouve, intéressant entre Marvel et Shueisha. C'est que si tu regardes l'arrivée de Marvel au cinéma, avant que Marvel ne prenne les contrôles à travers Marvel Studios en 2008, comme tu l'avais dit, avec les débuts, il y a eu toute une phase où Marvel externalisait la production de films. Ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas les ressources de faire eux-mêmes des films, et donc ils vendaient des licences à d'autres studios.
Le meilleur exemple, c'est Spider-Man,
les X-Men, tu vois. Et justement, comme il y a eu beaucoup de cas de films un peu nuls, ils se sont aussi dit, bah on va le faire maintenant nous.
T'as pas aimé Venom ?
On va le faire nous, mais il y a eu plein de trucs, tu vois, genre Elektra.
Ah oui, c'est vrai, putain, Elektra, je l'ai complètement oublié.
Et ils se sont dit, bah on va faire les films nous, peut-être qu'on va réussir à avoir un accueil critique plus intéressant, et aussi on va se faire plus de thunes. Et donc ils ont commencé à développer eux-mêmes leur propre film et de contrôler vraiment cette chaîne de production du produit. Et j'ai l'impression que Shueisha fait un peu ça, en fait, maintenant. Contrôle un peu plus la chaîne de production et diffusion du manga. Et, comme disait Julien, il se diversifie en faisant des séries, maintenant, grosses séries Netflix. Est-ce que la grosse série One Piece permettra de développer... J'en sais rien. Est-ce qu'il peut y avoir une série Naruto, tu vois ? Et est-ce que ça peut devenir un nouveau truc au moment où les gens commencent à en avoir un petit peu marre du MCU, de se dire, ah, bon, en fait, maintenant, la nouvelle tendance, ça va être de voir des séries adaptées de licences manga.
T'imagines si les héros comme Luffy, Sangoku ou Naruto prennent la place du MCU en termes de popularité, en termes de justement d'impact que ça peut avoir, c'est incroyable. En termes financièrement, les retombées derrière, c'est sans commune mesure.
C'est clair. Et en tout cas, la volonté de la Shueisha, elle est assez claire. Elles veulent aller... L'entreprise veut aller dans cette voie-là. Si on regarde, par exemple, toutes les dernières grandes annonces de la Shueisha, en fait, elles se sont produites à la Comic-Con de New York. Donc la Comic-Con, qui est le salon historiquement important avec Suite San Diego, où la pop culture US annonce ses plans pour l'année ou les années à venir. C'est là où le MCU annonce les nouveaux films qui vont arriver, les nouvelles phases de développement, les nouveaux jeux vidéo qui sont liés à la pop culture américaine. Et là, maintenant, on a aussi la Shueisha qui annonce des trucs, en fait. Et ça devient un truc un peu pop culture global. Tu vois, par exemple, Dragon Ball Super, Super Hero, le dernier film en date, en image de synthèse, réalisé à l'ordinateur de Dragon Ball, il est annoncé là, il est annoncé à la Comic-Con de New York. Plus récemment, au moment où on enregistre, c'est tout récent, il y a l'annonce de la nouvelle série télévisée Dragon Ball, Dragon Ball Daima, c'est annoncé à la Comic-Con de New York avec une bande-annonce en anglais. Et ça, c'est nouveau, en fait, d'annoncer une nouvelle série japonaise déjà avec les sous-titres en anglais prêts pour le marché occidental. Et il y a eu plein de petits trucs. Cette année, à la Comic-Con de New York, il y a eu une expo aussi, Manga Dive, qui exposait les mangas et les licences de la Shueisha. Tu vois qu'il y a ce truc un peu agressif de conquérir le marché pop culture américain.
Oui, parce que quand il y avait Dragon Ball Super tout court, ça passait encore par des médias spécialisés pour savoir qu'il y avait une nouvelle licence qui arrivait de dessin animé. Et on disait, et nous, en plus, genre, en France, on l'a eu bien plus tard parce que la Shueisha ne voulait pas la diffuser immédiatement en France. Alors que là, je sens qu'on va commencer à partir sur de la diffusion internationale à J+1 maximum, même sur ces grosses licences qu'avant ils étaient un peu réticents, même sur Dragon Ball quoi. À l'époque Dragon Ball Super, c'était l'incompréhension de ne pas comprendre pourquoi la Shueisha ne voulait pas diffuser en France en même temps que les Japonais quoi. Après on voit qu'ils ont aussi un gros contrôle sur leur communication aussi.
Vas-y. Juste, je pense quand même que Dragon Ball, c'est un peu un cas à part, parce que il y a une partie des droits de diffusion qui est détenue par la Toei, il y a l'espèce de succursale spécifique Dragon Ball qu'ils ont créé.
Exact.
Je pense que c'est quand même, faut préciser que c'est un peu un cas un peu à part.
Je pense effectivement, Dragon Ball, c'est très compliqué en droit, mais j'étais assez, je rigolais pas mal quand je voyais autant du coup de fansubs sortir et la Shueisha qui se débattait pour arrêter tout ça. Et tu fais, vous l'avez un peu cherché là. Hein. Tu peux pas nous interdire les Dragon Ball et attendre un an pour ce que tu as décidé de me faire attendre un an. Il y a aussi un petit changement dans leur communication, c'est que déjà ils contrôlent aussi leur communication sur les licences. Avant il y avait la Toei typiquement qui a annoncé les adaptations, les choses comme ça, et maintenant c'est la Shueisha qui directement communique. Ça aussi hein, c'est hyper important. Et ils mettent en avant leur marque, c'est Manga Plus par Shueisha, alors qu'ils auraient pu l'appeler que Manga Plus. Et ils veulent absolument que la Shueisha soit inscrite et que la marque s'installe auprès des lecteurs.
Un autre point aussi qui peut être intéressant à développer, et pour faire le lien avec, encore une fois, le MCU et le live action de One Piece, Marvel n'a jamais réussi vraiment à jouer de son effet de levier pour faire en sorte que le nouveau public qu'ils ont conquis grâce au film Marvel aille lire des comics. Mmh. Ça s'est pas produit. En fait, quand tu regardes les ventes de comics, notamment les comics à l'unité qui sont vendus, donc ceux qui sortent en single issue, ils chutent depuis très longtemps. Les ventes d'aujourd'hui sont beaucoup plus basses que les ventes d'il y a 10 ans, elles-mêmes plus basses qu'il y a 20 ans. Donc, il n'y a pas eu cet effet d'un public réceptif au film MCU qui allait lire les comics de super-héros, de DC ou de Marvel. Dès lors, on peut aussi se poser la question, est-ce que quelqu'un, tu disais ta copine tout à l'heure, Julien, dans ma famille aussi, des gens qui n'ont jamais lu le manga One Piece, qui tout d'un coup voient la série et trouvent ça hyper intéressant, est-ce que pour autant, parce qu'ils sont matraqués toute la journée maintenant avec des produits dérivés des licences Shueisha, est-ce que ça va les faire lire le manga ou les mangas de ces licences-là ? Je suis pas sûr, même s'il y a un forcing assez malin de la part de la Shueisha, notamment comme on a dit tout à l'heure, de rendre certains mangas disponibles, les 12 premiers tomes de One Piece, pour donner l'envie, quoi. Mais je suis pas sûr que ce transfert soit automatique. J'ai l'impression qu'on est c'est des publics parfois fondamentalement différents.
Disons que le grand public, peut-être comme ça, n'ira pas dans un premier abord. Il y aura peut-être un public qui était déjà un peu sensibilisé, qui a jamais osé y aller, puis c'est la bonne l'occasion hein, d'enchaîner. Le souci, c'est que là, One Piece, c'est un peu aussi le mauvais exemple. C'est à la fois le bon choix pour adapter, mais le mauvais choix.
105 tomes.
Voilà.
105 tomes.
C'est ça. Tu as plus de 100 tomes à lire, et là, du coup, ben, ça direct, c'est un blocage, mais tu te dis, c'est pas grave.
Ouais, mais mon gars, il y a les soirées One Piece maintenant. C'est trop bien quand il y a un nouveau tome qui sort.
Ben, à chaque fois, il y a l'événement. Mais même, ils se disent, je vais regarder la série télé. Et puis le problème, c'est qu'il n'y a pas de One Piece Sky officiel. Et donc, du coup, ils se retrouvent avec 1000 épisodes à regarder d'un coup.
One Piece quoi ?
One Piece Sky.
Sur Dragon Ball, en fait, quand ils ont remasterisé Ball, ils avaient sorti justement Dragon Ball Kai, où au lieu de faire, je ne sais plus, 300 épisodes, ça en faisait 100, je ne m'en rappelle plus les nombres, mais ça permettait d'enlever tous les fillers, les 40 épisodes de Freezer qui se regardent dans les yeux.
Alors, One Piece Sky existe, hein. C'est des épisodes de 2h30, 3h qui font un arc. Mais bon, c'est pas officiel.
Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque, c'est ça en fait. C'est-à-dire...
Alors sachez qu'il y a des résumés, hein. C'est les TV specials. Tu vois, par exemple, il y a un TV specials officiel qui résume tout à la basta.
Ouais, mais je pense que c'est pas mis en avant. Et ça, c'est ce qui va manquer pour pousser les gens à aller vers un support ou l'autre. Tu peux pas demander aux gens de s'investir 100 volumes ou 1000 épisodes. Il faut que tu leur fasses des portes d'accès faciles. Et ça, la Chocha, ils ont pas pensé à ça en fait.
Je suis d'accord. Voilà, c'était tout. Allez. Au revoir. Voilà, je crois qu'on va bientôt arriver au bout de cette discussion. Notre idée avec ce focus, c'était d'apporter une réflexion sur ces deux nouveaux projets qui ont été proposés par la Chocha. On pense qu'on a une étape de développement charnière de l'entreprise, une étape où l'entreprise va aller de plus en plus vers une expansion au niveau global de ses licences et aussi du contrôle de ses licences. On trouvait que c'est intéressant de discuter de ça, d'autant plus qu'on n'a pas souvent vu ce genre de réflexion. Vous savez, on a souvent des producteurs de contenu qui réfléchissent sur les licences, qui vont faire des théories sur One Piece, qui vont faire des théories sur telle et telle licence, mais on prend plus rarement le temps de réfléchir sur les conditions de production de ces licences et comment elles sont produites, comment elles vont être développées pour les années à venir. Et peut-être pour conclure, on peut mettre en avant toute une série de questions auxquelles on n'a pas de réponse, mais dont je pense qu'il est essentiel de se questionner pour comprendre les enjeux futurs pour la Shueisha et pour les licences, en tout cas des gros mangas promus par la Shueisha.
Déjà, on peut se demander, enfin, on voit que la Shueisha touche tout le monde sur tous les fronts, dans cette idée de diversification et de création d'univers, d'expérience. Mais ça peut être quoi les prochaines actions de l'éditeur ? Qu'est-ce qu'il peut mettre en place, justement, pour fédérer ce public et surtout fédérer des univers qui, aujourd'hui, n'ont pas de lien direct entre eux, hormis dans des jeux de combat, quoi.
Moi, je pense que, déjà, si tu remplaces une semaine la Statue de la Liberté par Luffy, je pense que ça fait un putain d'impact de malade quand t'arrives en avion.
What ?
T'enlèves la statue, tu la mets dans l'eau et tu mets un Luffy géant là-bas.
Non, tu coules un truc par-dessus et t'en fais la forme de Luffy, pas besoin de la retirer. Tu fais un truc temporaire.
Le problème, c'est que One Piece, ça se passe pas à New York, tu vois. Ça, c'est un avantage qu'ont les héros du MCU, notamment. C'est que tout se passe à New York, donc tu peux plus facilement t'identifier. Mmh.
Mais je pense effectivement, comme on disait tout à l'heure, il faut qu'ils fassent des sortes de passerelles, d'aides à l'accès aux univers qui aujourd'hui n'ont pas développé. Aujourd'hui, il faut rentrer dans l'univers directement. Un peu comme le MCU, des fois, fait des comics, tu sais, de présentation de héros qui te reprennent des histoires. Typiquement, j'avais lu un comics de Spider-Man qui te reprend des histoires du début au milieu, enfin, tu vois, des grandes étapes de Spider-Man qui te permet de rentrer dans la découverte du héros. C'est bête, mais ça m'a permis de vraiment apprécier Spider-Man pour ce qu'il vaut, en fait, et connaître son origine. Et ça, je pense qu'il faut aller vers ce genre de guide ou de médias, peut-être, pour des gros univers un peu complexe à accéder, quoi.
Après, le problème, c'est que je pense que c'est plus difficilement faisable parce que dans le cas des comics, c'est différents runs faits par différents auteurs et qu'à chaque fois, tu peux piocher par-ci, par-là pour te dire, bon, bah ça, c'est les meilleures histoires pour que tu puisses comprendre le personnage, ses motivations, ses conflits. Et ensuite, bah, si je veux plus, je prendrai les autres histoires. Les mangas, c'est une seule longue histoire, en général, en tout cas pour certains shonen, dessinée par un même auteur, à part les, vous savez, là, les character books qui vous sortent, où vous avez toute une data sur l'univers et sur les personnages.
Non, je ne voyais pas tout à fait ça. Là, c'est un exemple, mais typiquement, rien que de coloriser, c'est ce qu'ils font pas mal au Japon en numérique, de coloriser les bouquins, ça peut être une meilleure porte d'entrée pour tout un public qui, le noir et blanc...
Ah, tu penses que le noir et blanc est une barrière ?
Tout à fait, ouais. Je pense que le noir et blanc pour un public américain est plus une barrière qu'ils sont habitués à la couleur. Et tu vois, c'est ce genre d'action comme ça, en fait. Je dis pas des résumés, hein. C'est un exemple, mais c'est ce genre d'action.
J'y avais pas pensé.
Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais je pense pas que la longueur des séries soit un problème, en fait. Parce que si tu regardes, dans le comics, un des gros soucis, c'est justement les portes d'entrée. Et les maisons d'édition mainstream du style Marvel et DC n'ont de cesse que de rebooter leurs séries pour leur dire, hé, il y a un nouveau numéro 1, c'est maintenant que tu dois venir si tu veux commencer à lire. Ou ils te font des versions reliées de certains runs classiques, mais les gens, le grand public, a toujours l'impression que c'est trop compliqué, en fait, quoi qu'il arrive. Ils disent, ouais, mais je pige rien, il y a 50 ans de continuité, j'ai rien compris. Alors que le manga, tu leur dis, ouais, c'est long, mais en fait, tu commences au tome 1 et tu finis au dernier tome et c'est bon, t'auras toute ton histoire. Et si en plus tu leur dis, mais t'inquiète, tu payes rien, tu payes 5 balles par mois et tu peux tout lire, tu peux te gaver de lecture sur ta tablette, ça peut mieux passer, tu vois. Moi, il y a un truc auquel j'avais pensé. Tu disais un peu plus tôt, Julien, que Nintendo était devenu une entreprise de divertissement et pas juste de jeux vidéo, et qu'il y avait, c'est vrai que Nintendo maintenant développe un petit peu la Shueisha aussi, ses licences. Et du coup, est-ce qu'on peut retrouver aussi à l'avenir, vous pensez, des parcs à thème Shueisha, à l'image du Nintendo World qui vient d'être créé?
Justement, vis-à-vis de ça, ouais. J'ai vu une news quand je cherchais sur internet de justement la Shueisha qui évoquait l'idée de faire un parc à thème, mais ça remontait à, je crois, la news, elle remonte à des dizaines d'années. Entre temps, ils ont jamais rien fait. Effectivement, je pense que cette question a creusé.
Clairement, aujourd'hui il y a déjà des petites choses qui existent, hein. Tokyo, il y a des tu vas y avoir régulièrement des mini parcs à thème expositions, mais c'est plutôt vous savez ces petites expos, petits parcs à thème dans les centres commerciaux, donc c'est des choses assez limitées, souvent temporaires. Mais le gros parc à thème à la Nintendo World, ça n'existe pas encore. Et clairement, je pense que on peut voir le potentiel du
ça truc, pourrait quoi. Arriver clairement. Il y a des questions auxquelles on a déjà répondu, hein. Typiquement, on se posait la question si est-ce que les héros de la Shueisha d'aujourd'hui, dans 5-10 ans, ça sera justement les héros du grand public ou du moins les nouveaux héros des nouvelles générations qui sont à fond sur le manga et qui vont peut-être mettre de côté les super-héros actuels américains pour partir sur des super-héros japonais, en fait. Ça, on peut vraiment se poser la question.
Chez nous, c'est déjà un peu le cas, non? C'est surtout aux États-Unis où ça peut encore changer, quoi. J'ai l'impression que c'est nous...
Chez nous, c'est déjà bien implémenté, mais la Shueisha, il vise pas la France, hein. Il vise les US.
Ah non, c'est clair. Ah non, c'est clair.
Pour ça que toutes ces questions sont aussi très tournées internationales et US. Pareil pour les prochaines adaptations, ils ont fait One Piece, mais adapter un manga, c'est toujours compliqué. Est-ce que les budgets, est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce que les budgets vont suivre? Imaginons, ils adaptent Naruto. Pareil, hein, niveau budget, il faut y aller quand même.
Voici le village de Konoha reproduit.
Ça peut faire mal. C'est pareil, est-ce qu'ils vont arriver à lier les univers qui aujourd'hui ne sont pas du tout connectés, mais ils pourraient arriver à faire une sorte de connexion entre les univers et agrandir encore plus cette expérience au niveau des super-héros, alors qu'aujourd'hui on est plus dans des guerres de ça c'est ma série préférée ou Dragon Ball est meilleur que One Piece. Peut-être qu'un jour ça sera plus le cas, tu vois, ça sera plutôt la Shueisha est meilleure que d'autres éditeurs, tu vois, on pourrait imaginer un combat comme ça. Et de manière générale, c'est vrai qu'il y a peut-être une question, on parle beaucoup de Shueisha, mais on se rend compte que depuis quelques temps il y a quand même pas mal de... Le Japon revient un petit peu en force, notamment avec le jeu vidéo ou typiquement le film d'animation de Mario. On avait eu une grosse vague de la Corée il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de soft power japonais qui revient et qui pousse aussi Shueisha dans cette vague et qui l'aide à mieux s'implémenter à l'international, parce que le Japon peut-être revient un petit peu à la mode et ça va redevenir un petit peu la nouvelle mode du moment, quoi. Et par rapport à toutes ces questions auxquelles on n'a clairement pas les réponses aujourd'hui, c'est l'avenir qui nous le dira, mais je pense qu'il faut les garder en tête et peut-être dans 5 ans les remémorer et voir si finalement aujourd'hui on peut y répondre.
Moi personnellement, je pense que la question la plus importante, c'est il y a plus ou moins 2 semaines, Yoshiro Togashi a tweeté une planche d'un de ses brouillons qui a fait plus de 50 millions d'engagements. Donc la vraie question, c'est à quand la suite d'Hunter x Hunter? Je pense que le reste après n'a pas d'importance.
Ce sera un abonnement max ultimate à 15 balles. Moi, je ferais ça.
Juste avec Hunter. L'accès à Hunter à 15 balles par mois.
Un chapitre, 15 balles, tu le peux lire une fois. Et tu payes à chaque fois.
D'ailleurs, je vous conseille d'écouter l'émission de Kana sur Togashi qu'ils ont fait en sorte de live là.
Ah, j'ai pas écouté.
Elle est hyper intéressante sur Togashi, j'ai appris plein de choses. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir sur leur chaîne YouTube.
Ok, j'écouterai.
Voilà, tout ça pour dire que je pense qu'ils ont aussi une carte à jouer avec Togashi, hein, vu qu'il peut poster la photo de son cul, il fera des millions d'engagements. Donc pensez à ça, Shueisha.
Ah ça, ça m'intéresse.
C'est noté, on va leur envoyer ta proposition, Max. On va voir ce qu'ils nous répondent. Réponse dans quelques semaines.
Très bien, nous arrivons à la fin de cet épisode sur la Shueisha.
Mais alors pour conclure, est-ce qu'on se retrouvera l'année prochaine, justement, pour peut-être, ou dans 2 ans, je ne sais pas combien de temps ils vont prendre,
ouais,
pour faire un petit débrief de la saison 2
de Bunko.
Ouais, pour la saison 5 de Bunko, faire un petit...
Ah, on peut faire un débrief de la saison 2, ouais. Ouais. Et on fera aussi un débrief de Yu Yu Hakusho. Est-ce que Yu Yu Hakusho sera aussi une série réussie ? Ou est-ce qu'en fait, bah non, One Piece restera un truc un peu à part de par sa réussite et ses ambitions en termes de série. Mmh.
Sachant que Yu Yu Hakusho reste pour un marché japonais, rappelons-le.
Ouais, ouais, c'est très... J'ai vu les coupes de cheveux, ouais. Les coupes de cheveux,
Il suffit de voir les acteurs, hein. S'ils sont asiatiques, ouais, hein, c'est bon.
Ouais, ouais. Très bien, messieurs. Et écoutez, sur ce, je pense qu'on va conclure l'épisode. Nous espérons que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Bunko. Au revoir.
Au revoir. Bye bye.
Manga moins.
Oui, le site Manga moins.
C'est un scandale, ce site.
Il est incroyable. Il est incroyable, ce site.
Ils ont vraiment tout recopié, Manga Plus.
Mais en gratuit. Et avec des pubs de cul.
Ce foutage de gueule. Ah oui, ouais, c'est vrai.
Encore heureux.